Bonsoir à toutes et à tous. C'est une grande vidéo. Ah, ça c'est sympa comme vidéo. Ça peut toujours être utile. Merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles. Un soir de semaine, qui plus est l'avant-veille des vacances de février. Pour avoir autre chose de mieux à faire. Donc, j'apprécie le fait que vous soyez là et je pense que c'est une grande richesse pour notre territoire que d'avoir des femmes et des hommes qui veulent s'impliquer pour leur commune, qui veulent débattre, qui veulent peut-être écouter des éléments de bilan, des éléments de proposition, des éléments de débat. En tout cas, on est là ce soir, je suis là ce soir pour vous présenter un certain nombre d'orientations, pour débattre, pour échanger avec vous. Je sais qu'il y aura des questions, sans doute, pas en tout cas. Et on est là pour ça, et ce que je vous propose, c'est que si jamais un certain nombre de questions n'ont pas pu soit être posées, n'ont pas pu être répondues, ça m'étonnerait, au cours de cette réunion, ben, je resterai encore un petit peu après cette réunion. Alors on s'est toujours fixé quelques règles. La première des règles, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions tabou, on peut tout poser. Voilà. Je connais un certain nombre d'entre vous. On a des accords, on a des désaccords, ça fait aussi partie de la vie locale que d'avoir des désaccords. On est là aussi pour échanger, pour en parler. Voilà. En revanche, je me fixe une seule règle, je n'évoque pas dans les réunions publiques ou dans les réunions privées dites d'appartement de situations ou de cas particuliers. Je pense que vous le comprendrez aisément, je ne parle pas d'une situation scolaire particulière, je ne parle pas de problématique ou d'une autorisation d'urbanisme. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là, nous sommes là avec un certain nombre d'élus qui sont là. Ces élus pourront d'ailleurs peut-être participer ou répondre à un certain nombre de questions. En tout cas, encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là. Si on est là ce soir, c'est parce que, dans quelques semaines, vous le savez, on va avoir un moment de rencontre, un temps démocratique, voilà, comme tous les 6 ans, le 15 mars et le 22 mars, hein, c'est l'élection municipale. Et c'est toujours l'occasion un peu de se poser un certain nombre de questions sur ce qui nous définit en tant que citoyens. Avec une particularité, c'est que nous sommes des citoyens fusionnés entre 2 communes déléguées, celle de Saint-Germain, celle de Fonqueux. Donc forcément, ce climat, il est, je pense, aujourd'hui apaisé, mais on est dans un contexte électoral un peu inédit. Voilà, c'est la première fois que nous allons élire au suffrage universel direct une liste composée de 45 plus 2 suppléants, hommes et femmes, qui vont représenter l'intégralité de notre territoire ainsi fusionné. Et c'est très important, bien évidemment, on aura l'occasion de parler de la fusion, de faire le bilan de ce qui s'est passé depuis cette année, voilà, ce qui peut encore peut-être être amélioré. Il y a toujours des marges de progression. Toujours, toujours. Et on est là aussi pour faire ça. Vous savez, une gestion locale, c'est avant tout une gestion de bon sens et c'est une gestion pragmatique. Les élus ne prétendent pas détenir la vérité, ne prétendent pas détenir une espèce de science infuse qui nous serait délivrée par je ne sais qui, mais je pense que nous sommes, quels que soient les élus, majorité ou opposition, les 70 élus qui composent notre équipe municipale, je dis bien notre, parce que c'est l'intégralité de l'équipe municipale de nos 2 communes déléguées, je pense que nous avons une caractéristique en commun, c'est le bon sens et le pragmatisme. Ceci étant dit, quand je parle un peu de cette élection, ça nous permet peut-être de nous poser la première question, c'est qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous définit, c'est quoi le dénominateur commun sur nos territoires? Qu'est-ce qui définit, quelque part, l'identité fougueusienne, l'identité saint-germanoise et l'identité de cette commune nouvelle. Moi, j'ai essayé de faire cet exercice, hein, d'autres l'ont fait, et on l'a décliné dans notre programme autour de 3 axes prioritaires. Et je pense qu'on peut se réfléchir à beaucoup sur ces sujets-là, mais ce qui nous caractérise tout d'abord, c'est que nous sommes un territoire où la première des priorités, elle est autour de l'éducation et de la famille. Et c'est très important. Certains d'entre vous ont choisi de vivre ici parce que vous souhaitiez y élever vos enfants et vous souhaitiez qu'ils aient accès notamment à une qualité d'enseignement, peut-être à nul autre pareil dans le département des Yvelines. Petite particularité de la commune nouvelle, 23 000 élèves, hein, Saint-Germain-Fourqueux,
47 000 habitants. Le ratio élève par habitant, le plus élevé d'Europe. C'est énorme. Hein? Et maintenant, si on rajoute les 650 étudiants Sciences Po, voilà, et peut-être plus de 1000 étudiants de Sciences Po d'ici quelques années, on voit bien qu'on est en train de devenir aussi une ville étudiante, et on est une ville où l'éducation, elle est prédominante. Donc ça nous engage. Ça nous engage sur quoi? Notamment les bâtiments dont nous avons la responsabilité. L'école Charles Bouvard, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a un programme d'investissement important sur le collège et le lycée international, vous le voyez, avec des aménagements de voiries qui ont eu lieu, qui ne sont pas encore tout à fait finis, et des aménagements en circulation douce. Mais vous avez le collège des Haubriers, vous avez le lycée Léonard de Vinci, qui vient d'être refait, quand on se souvient comment était le lycée Léonard de Vinci il y a quelques temps, on ne peut que se féliciter d'avoir ce lycée, un lycée professionnel à la pointe des technologies, avec, on l'espère bientôt, l'ouverture d'une section allemande dans ce lycée. Parce que la particularité, évidemment, de notre ville, dans cette éducation, c'est qu'elle est internationale. Et vous le savez, parce que pour que c'est par définition le village international, c'est peut-être l'une des zones ou l'un des bassins de population qui est le plus représenté au lycée international. Il y a des représentants des communautés étrangères hein, qui sont là, je l'ai sous mes yeux avec toi, Thérèse, section polonaise. On a ouvert une section polonaise à l'école élémentaire Marie Curie il y a quelques mois et tu étais là pour inaugurer cette section avec le ministre de l'Éducation. Et donc ça, c'est un dénominateur commun. Cette dimension internationale et cette dimension scolaire, elle nous engage. Je précise également qu'au cours de ce mandat, même si peut-être ça vous concerne un petit peu moins directement, mais un certain nombre de groupes scolaires, de lycées, ont été refaits. Je pense au lycée Poquelin, qui est un lycée professionnel. Je pense évidemment au lycée et collège international, c'est pas tout à fait fini. Je pense au lycée agricole, qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Le lycée agricole, je pense que vous le connaissez tous. Petite particularité du lycée agricole, 100% des jeunes qui sortent du lycée international trouvent un job. 100%. Sur des filières développement durable, agricole, horticole, et c'est vraiment une chance pour notre territoire que d'avoir ce lycée agricole. En plus, ils ont des serres, ils font là pour le coup du circuit court directement. Hein, ils vendent aux consommateurs. Petite précision sur le lycée agricole, je fais une digression. Alors, il peut que je fasse des digressions. Hein. Si j'en fais des digressions trop longues, il faut me remettre un petit peu dans le chemin. Nous produisons, Saint-Germain-Fourqueux, 90 000 fleurs par an. Toutes ces fleurs aujourd'hui, elles sont produites dans les serres du lycée agricole et horticole avec l'aide des enseignants et des jeunes de ce lycée. Bon, voilà, c'est une petite particularité également de notre territoire. Et bien évidemment, quand on a cet axe prioritaire qui est l'éducation dans un contexte international, et bien ça nous pousse à investir régulièrement dans les écoles, à les moderniser, et ainsi de suite, notamment à Charlevoix. On a numérisé un certain nombre d'équipements et on va poursuivre à le faire dans les salles de classe. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième acte, qui je pense nous définit tous ensemble, nous avons cela en commun, c'est la ville et le village nature. Nous avons un territoire qui est composé à 75% de la forêt. Forêt de Saint-Germain, un petit bout de la forêt de Marly, qui est là. Et ça, c'est un combat qui est important, que nous avons mené au cours des dernières années. D'autres l'ont fait, Monique l'a fait avec son association pendant longtemps, parce qu'elle s'est battue pour éviter les changeurs de la 14 au cœur de la forêt. Et c'est un combat de tous les instants. C'est un combat juridique, tout d'abord. Il fallait donner à cette forêt de Saint-Germain, dans un premier temps, j'espère, de Marly plus tard, un statut juridique. C'est ce qui a été fait il y a quelques mois, avec le classement en statut dit de forêt de protection, comme Rambouillet, comme Fontainebleau. Et ça, c'est important, parce que ça va en tout cas empêcher qu'un certain nombre d'équipements routiers, d'aménagements routiers, puissent voir le jour demain. Donc ça, le statut, c'est important. Le statut, c'est pas un point de commencement. C'est un point, voilà, pardon, c'est pas un point d'aboutissement, c'est un point de commencement dans ce que nous voulons faire pour protéger cette forêt. Et puis après, il fallait dire peut-être en secours à l'Office national des forêts, qui est l'administration de l'État qui gère la forêt de Saint-Germain et celle de Marly. Particularité de cette administration, et bien, c'est qu'elle a de moins en moins d'argent. Et ça, c'est difficile quand vous êtes maire et que vous recevez au mois de juillet 2018, la première fois, un courrier de l'ONF qui vous dit « Monsieur le maire, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Donc je ne vais pas ramasser les déchets sauvages dans la forêt, je ne ramasse plus. Là, vous dites zut, parce que si l'État, l'administration n'est plus en mesure quand même de ramasser les déchets sauvages dans la forêt, on sait que c'est un vrai problème. On sait qu'il y a un collègue maire, l'été dernier, qui a été tué. Parce que justement, il a tenté de s'opposer, c'était dans le Var, c'était en plus un élu que je connaissais bien. On sait que ce sont aujourd'hui des sujets de friction, on sait qu'il y a des entrepreneurs, des sociétés qui ont tendance à décharger dans la forêt un certain nombre de choses, du placo, de l'amiante, des déchets toxiques, des fûts de peinture, etc., etc. Et donc ça, il fallait de l'argent. Et on a lancé une démarche un peu originale, qui était les états généraux de la forêt. C'est un peu le téléthon de la forêt. Il fallait trouver de l'argent pour venir en aide sur 3 ans à l'Office national des forêts pour investir, et sur la forêt de Marly, et sur la forêt de Saint-Germain. Alors évidemment, vous, en tant que contribuable, vous y avez contribué à hauteur de 100 000 euros pour investir. Qu'est-ce qu'on fait dans l'investissement? Eh bien, on met des pièges photographiques, on met des caméras. À la gare d'Achères, on a mis des caméras. Voilà, pour essayer de prendre en flagrant délit celles et ceux qui seraient indélicats et qui viendraient déposer des déchets sauvages alors que c'est interdit. Et puis, il y a des dépenses de fonctionnement que l'on fait. Il faut aménager. Il faut que cette forêt, elle soit aussi agréable. La forêt de Saint-Germain, on peut dire à peu près pour la frange qui borde de la forêt de Marly, qui borde Fourqueux, c'est entre 3 à 5 millions de visiteurs par an. Donc 3 à 5 millions de visiteurs par an, ça abîme, quoi qu'on en dise, ça abîme quand même les sentiers. Et il faut que cette forêt, elle soit accessible pour tous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait avec Paul Joly, qui est maire adjoint en charge du handicap et de l'inclusion. On fait notamment tester tous les sentiers de la forêt pour que ça puisse passer, des fauteuils roulants. Et puis si ce n'est pas le cas, ben on aménage les sentiers, on aménage les chemins, etc., etc. C'était en tout cas le sens de cette démarche des états généraux de la forêt. Et le défi qui se pose à nous demain, c'est comment on fait quand on a une ville qui est composée à 75% de forêt pour que cette nature, elle vienne imprégner davantage notre ville et notre village, beaucoup plus, parce qu'on est dans des ambiances qui sont minérales. Mais elles sont minérales par histoire. Si je me réfère simplement à la place du château ou à la place du marché de Saint-Germain-en-Laye, historiquement, elles ont toujours été comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on ferait les choses différemment, mais les prescriptions des monuments historiques, à l'époque, ont imposé effectivement que l'on construise ou qu'on le refasse ces places comme ça. Et donc, il y a un grand enjeu pour désimperméabiliser les sols, pour végétaliser l'espace public. Et ça, ici, notamment à Fourqueux, ça concerne la place de la Grille que l'on va refaire. Alors, bien évidemment, à partir du moment où tout ça sera en place, les habitants seront concernés et concertés sur la rénovation de la place de la Grille. Mais la désimperméabilisation des sols, c'est quoi? C'est simplement que l'eau retrouve son circuit naturel et qu'elle puisse s'imprégner dans les sols, parce qu'on sait que des sols qui sont trop perméables, ça crée des ruissellements. Je ne dis pas qu'on va retrouver le niveau des inondations qu'on a pu avoir il y a quelques années au cœur de la rue Saint-Léger, avec les déversoirs qui sont arrivés, mais c'est un enjeu qui se pose en tout cas pour nous demain, et la végétalisation. Voilà. La place de la Grille, c'est une place qui, par définition, pourrait être davantage végétalisée demain. Voilà. Je vous donne quelques exemples des grands enjeux qui vont se poser à nous sur cette transition durable, sur cette transition énergétique, sur cette transition écologique que nous allons vivre. Alors ce programme, à l'échelle de la commune nouvelle, il est très ambitieux. On est sur plus de 10 000 m² à végétaliser sur tout le territoire. J'ai parlé de la place de la Grille, mais il y a notamment sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Germain, le quartier dit de l'Hôpital, voilà, qui est un quartier aujourd'hui qui est quasiment une friche industrielle à certains égards, et que l'on peut végétaliser. La végétalisation du quartier de l'Hôpital répondant quelque part à la minéralité un peu trop extrême de la place du marché. Voilà un exemple, en tout cas, concret. Puis ces politiques environnementales, on les décline. On les décline à l'école, par exemple. Aujourd'hui, on a des objectifs législatifs que l'on a, nous, anticipés. On va renégocier le marché public sur l'ensemble de nos écoles. Mais aujourd'hui, vous avez, sur l'école Charles Bouvard, 50% de bio et de circuits courts. 20% d'alimentation bio et environ 30% de, je regarde si je dis, parce que si je dis des bêtises, elle me corrigera, de circuit court. C'est quoi le circuit court? Ben, plutôt que d'acheter du pain industriel, des centaines de baguettes industrielles pour les gamins, on va acheter chez le boulanger, et qui plus est, le nouveau boulanger est très bon. Voilà. Et le bio, ben, c'est quoi ? Vous connaissez les filières bio, là ? On va être confronté à des débats, à des discussions. Est-ce qu'il faut mieux plus de circuits courts en achetant davantage de produits frais ici dans un rayon de quelques kilomètres plutôt que de faire venir des produits bio qui viennent d'Espagne ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, ce sont aujourd'hui de nouvelles problématiques qui se posent à nous et qui se posent à ceux qui sont en responsabilité au niveau local. Donc ça, c'est véritablement notre deuxième axe. Et cet axe de la ville et du village nature, il faut avoir en perspective un petit peu la révolution des transports qui est en train de se passer sur notre territoire. Il y a un élément structurant qui arrive, c'est le tram 13. Alors, je sais que c'est un débat qui a été compliqué, le tram 13, qui a eu des frichages d'arbres dans la forêt. Voilà, on a des avis différents. Moi-même, j'ai changé d'avis sur le tram 13. Au début, j'étais aussi pas forcément satisfait du tracé qui avait été choisi. J'avais préconisé à l'époque un tracé par le centre-ville de Saint-Germain, ce que la ville de Poissy va finalement réussir à faire, au prix peut-être de travaux importants. Mais aujourd'hui, c'est la décision qui a été prise. Donc, on peut pleurer sur ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est comme ça. Et ce tram 13, dans un peu plus de 20 mois, il va être opérationnel. Tous les travaux seront terminés à la fin de l'année 2020. Une phase de test environ 10 mois. Et en octobre 2021, ce tram, il va être ouvert et en service. Alors, est-ce que c'est une chance pour notre territoire, ou en tout cas pour les Foulquesiens, que de pouvoir aller jusqu'au RER de Saint-Germain en prenant le tram ? Bon, il faut quand même prendre ses jambes hein, pour aller à la station de tram qui est la station Fouque-Bel-Air qui est sur la place Mérignac, hein, il y a quelques minutes à pied quand même, mais ça peut être une tranquillité supplémentaire et ça peut réduire, en tout cas, les flux de voitures entre cette partie-là de la ville et la partie du RER ou du RER A. Ça peut aussi vous permettre, parce que cette ligne-là, elle va vous permettre, elle dessert également le parc du château de Versailles, et elle peut vous permettre de prendre le RER sur la ville de Saint-Cyr. Je ne suis pas sûr que ça arrive tous les jours, hein, pour la plupart d'entre vous, mais c'est aussi une possibilité. Et puis, quand la deuxième partie sera finalisée, ça permettra de rejoindre et Poissy, et Acher, et notamment le Technoparc de Poissy, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont implantées. Évidemment, à côté de la mise en place et de la mise en service de ce T13, 10 km de pistes supplémentaires nouvelles, hein, qui vont nous permettre de mailler. C'est compliqué, les pistes cyclables sur notre territoire. Enfin, vous le savez, on est sur un vallon. Et pour bien comprendre l'histoire de notre commune nouvelle, il faut comprendre sa géographie et sa topographie. Hein. On a quasiment deux plateaux, deux vallons, avec un talweg, avec un creux au milieu qui est la rue Saint-Léger, hein, qui est vraiment le point bas de la commune. Et toute l'histoire, on va dire, de Fourqueux et du plateau, en tout cas, du Bel Air de Saint-Germain, toute l'histoire autour du centre-ville de Saint-Germain, elle s'est faite autour de points de connexion, de points de franchissement, le pont de la sous-préfecture, un certain nombre de franchissements sous et au-dessus de la RN13. Je rappelle, pour ceux qui peut-être n'étaient pas là à l'époque, un certain nombre d'entre vous, qu'il y a même eu un projet de téléphérique à Saint-Germain, qui partait de quelques centaines de mètres d'ici, juste au niveau du Bel Air, pour aller place pareil à Saint-Germain-en-Laye, un projet qui avait été arrêté en 1977 et qui avait été lancé à l'époque, et ça avait fait l'objet d'une campagne municipale animée en 1977, pour ceux qui s'en souviennent, mais c'était il y a longtemps, quand même. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir à l'esprit cette révolution des transports et des mobilités qui va vous impacter, qui va vous concerner directement. Et puis, si on met en place des infrastructures, il faut que les gens soient incités à prendre les mobilités douces. Alors, la première des mobilités douces, c'est la marche à pied. On a tendance un peu à l'oublier, mais on va dire dans un rayon d'un kilomètre, un kilomètre et demi, deux kilomètres, il faut encourager la marche à pied. Voilà. Mais pour encourager la marche à pied, encore se faut-il que les trottoirs soient accessibles. Encore se faut-il qu'il y ait un minimum de civisme parmi nous tous, entre les vélos, les trottinettes, même les poussettes. Maintenant, on a des triporteurs, de nouvelles formes de vélos avec beaucoup de familles. Voilà, il faut partager, il faut apprendre à mieux partager l'espace public. Ça, c'est un défi aussi pour demain. Je n'ai pas la recette miracle pour faire ça, parce que vous savez, ici, c'est un peu moins vrai, mais quand vous allez dans l'hypercentre de Saint-Germain, quand on veut faire des trottoirs plus larges, les commerçants ne sont pas contents, parce qu'on supprime les places de stationnement. Et puis on supprime les places de stationnement aussi pour mettre des places de livraison, parce que si on ne peut pas s'arrêter pour livrer, et bien on bloque les rues. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, c'est un équilibre qui est un petit peu compliqué. Voilà, il faut jouer là-dessus de manière un petit peu chirurgicale, mais il faut en tout cas qu'on ait cette ambition de requalifier l'espace public, ici et ailleurs, avec des trottoirs plus larges et des trottoirs qui soient plus accessibles, de manière à privilégier cette marche à pied. La deuxième des mobilités, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, bien évidemment, c'est le vélo. Donc on va renforcer le nombre de kilomètres de pistes cyclables, le nombre de stationnements. On n'a pas assez de places de stationner. On a mis une petite, juste là, juste derrière l'espace, on a mis une station de gonflage. Je ne sais pas si vous l'utilisez, je ne sais pas même si vous en avez connaissance ou pas, mais il y a une petite station de réparation de gonflage. Mais voilà, il faut qu'on soit un peu plus ambitieux dessus. Il faut qu'on ait... Là, on est très en retard. Sur des points de recharge électrique pour les voitures. On est en retard. D'autres villes, je pense à Feucherolles, on était l'autre jour, vous allez derrière l'église à Feucherolles, il y a deux points de raccordement électrique. Donc il faut qu'on rattrape un petit peu notre retard. Il y a de plus en plus de véhicules hybrides ou électriques qui nécessitent des points de recharge. Alors évidemment, ce n'est pas gratuit, parce que tout ça, c'est un coût. Et quand vous branchez votre voiture, il y a des cartes de prépaiement, il y a des systèmes qui existent avec un syndicat qui s'appelle le SEIL, dans lequel nous sommes présents, et qui a tout un dispositif. Voilà, donc ça, c'est aussi important. J'ai parlé du T13, et puis il y a surtout le point le plus important, ce sont les utilisateurs des transports en commun. J'imagine la plupart d'entre vous, il faut qu'on ait une politique qui soit incitative pour vous permettre d'utiliser et de prendre davantage les transports en commun. Alors on avait un dispositif, les deux communes avaient des dispositifs à peu près semblables. Il y avait un dispositif à Saint-Germain qui s'appelait le pass local. C'était une espèce de passe qui vous permettait, avec deux critères qui étaient malheureusement cumulatifs, là, il fallait avoir 67 ans minimum, et il fallait des conditions de ressources. C'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain seuil de ressources, vous n'aviez pas accès à cette mesure et à cette gratuité. Alors, on a pris une décision importante qui va coûter un petit peu aux finances de la ville, ça va coûter 150 000 euros, mais on pense que c'est très important pour encourager les mobilités douces. On va permettre à tous les plus de 65 ans de la commune nouvelle, quel que soit le niveau de ressources, donc sans condition de ressources, de pouvoir avoir accès à la gratuité des transports en commun sur le territoire. Voilà. Beaucoup de villes sont en train de se lancer. Paris, c'est les moins de 18 ans. Nous, c'est les plus de 65 ans. Hein, chacun sa politique. Hein. Mais le fait de ne pas avoir la même politique que Mme Hidalgo, ça ne choque pas, très honnêtement. Mais voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Si on veut encourager le maximum de personnes à prendre les transports en commun et à ne pas utiliser la voiture. Alors c'est un vœu pieux, mais je pense que le T13 peut nous y aider, le réseau de bus peut nous y aider. En tout cas, une fois que le T13 et ce nouveau réseau de bus sera mis en place, parce qu'il y a un nouveau réseau de bus qui va être mis en place, la région est en train d'appel d'offres, donc on va avoir effectivement de nouvelles lignes. On m'a même dit qu'il y avait un projet de nouvelles lignes d'hôpital à hôpital entre Saint-Germain et Poissy qui pourrait voir le jour, donc ça c'est plutôt bien pour le service. Donc voilà, une fois que tout ça sera fait, il faut qu'on fasse un petit retour d'expérience, on se donne un petit peu de temps et on revoit le plan de circulation globale de toute la commune nouvelle. Voilà. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent évoluer. On a des points durs, le pont de la sous-préfecture, c'est un point dur. Voilà. Il faut voir comment on peut effectivement essayer d'améliorer les choses. Donc, je finis un peu ma digression sur les mobilités douces. L'éducation. Dans un contexte international, axe numéro 1. Cette ville nature et ce village nature, avec la révolution des transports et des circulations douces que nous allons engager, dans laquelle nous sommes déjà engagés. Et puis, je pense que le troisième élément de ce dénominateur commun, ce qui nous caractérise en tant qu'habitants de Fauqueux et de Saint-Germain, selon nous, c'est notre dimension culturelle et patrimoniale que nous avons et que peu d'autres communes ont. Et là, je dois dire que nous baignons dans un environnement culturel, à nul autre pareil, aussi bien Fauqueux que Saint-Germain. Et je pense qu'il nous faut poursuivre tous les investissements que nous faisons pour rénover notre patrimoine. Alors ici, à Fauqueux, l'église Sainte-Croix, qui est un patrimoine communal, comme la paroisse Saint-Germain. Nous avons deux églises, ces deux églises. On a engagé 3,5 millions d'euros sur la paroisse Saint-Germain, on a quasiment terminé. Il reste les orgues, les orgues c'est cher. Très cher les orgues. Puis il y a des débats entre les anciens et les modernes, est-ce qu'il faut électrifier l'orgue, est-ce qu'il ne faut pas l'électrifier. Donc il y a beaucoup de sujets autour de l'ordre. Mais vous savez, pour ceux qui fréquentent ce lieu de culte qu'est l'église Sainte-Croix, qu'elle est un peu en souffrance dans sa structure, dans sa toiture. Et il y a un projet, en tout cas, important de rénovation. On a engagé le début des études avec le ministère de la Culture, qui est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui assure en tout cas la maîtrise technique et le conseil en la matière. C'est plus d'un million, peut-être 1,5 million d'euros qu'il va falloir engager pour restaurer ce patrimoine. On a la chance d'avoir aussi du patrimoine privé, qui est important. Je pense à la Villa Colin, évidemment, qui est juste au-dessus, hein, qui a une prescription monument historique. Et puis, il y a la mise en valeur aussi de tous les grands artistes qui ont traversé notre territoire. Tous ces illustres, d'Alexandre Dumas à Victor Hugo évidemment ici, Henri Marette, le peintre, qui a été un proche de Maurice Denis, et Claude Debussy. Voilà. Et donc, d'avoir un projet autour d'un cheminement culturel autour de ces illustres, ou des maisons des illustres, qui partiraient du château, qui parcourraient la rue Aupin et la maison natale Claude Debussy que nous allons refaire, qui irait jusqu'au musée Maurice Denis pour rendre un petit hommage à Maurice Denis et à Henri Marette, et puis qui cheminerait ensuite la rue de Fourqueux pour remonter jusqu'aux traces de Victor Hugo, ici, et également du peintre Henri Marette, puisque c'était le même domicile, la même maison. Sans dire de bêtises, je ne veux pas que Monique et Bernard me tapent dessus, mais voilà, on est à peu près sur... Ça fait aussi partie des projets culturels que nous avons. Hein. On peut décliner, on peut développer, évidemment, mais ça vous donne un peu une idée des trois axes prioritaires. On peut parler du sport, on peut parler d'autres choses, mais bon, toutes les autres communes ont ça. Et les trois axes que j'ai cités, c'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est vraiment ce qui nous défiera, ce qui va nous différencier et ce qui nous différencie en tant que commune. Et puis, il y a un certain nombre de grands projets structurants. Il y en a un qui va vous impacter, parce qu'il est autour de l'offre de soins sur le territoire, c'est le projet de l'hôpital de Saint-Germain. Ça, vous êtes tous peut-être utilisateurs des services de l'hôpital ou de la clinique Saint-Germain, donc ça va vous impacter. Il était important pour nous, alors même que l'hôpital était en train de redéfinir un projet médical avec l'ensemble des professionnels de santé, que, quelque part, on redéfinisse l'offre de soins sur notre bassin de situation. Je prends juste quelques minutes parce que c'est un sujet important. Moi, j'ai été frappé, depuis que je suis en responsabilité, par la crainte qu'ont un certain nombre de nos habitants, de nos administrés, sur la désertification médicale en milieu urbain. Et cette crainte, elle est en partie justifiée. Elle est moins justifiée sur notre territoire. On a quand même une représentation de médecins, de praticiens de santé qui est importante. Mais si vous faites quelques kilomètres autour de nous, il y en a de moins en moins. Il faut dire qu'on est dans un pays un peu étonnant, où on a tout fait depuis des décennies pour décourager les infirmières, les médecins, de s'installer et de pratiquer. Et bien aujourd'hui, quelque part, on en paye tous un petit peu l'addition. Et donc c'est important pour notre territoire, que d'avoir une offre de soins qui soit importante. On redéfinit les fonctionnalités de l'hôpital autour de toutes les spécialités dites de jour, et puis autour de la chirurgie dite ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, c'est la chirurgie de jour, c'est celle qui ne nécessite pas d'être hospitalisée la veille ou qui ne nécessite pas d'être hospitalisée ensuite de soins, théoriquement, parce que pour le faire, on est obligé de mettre ce qu'on appelle un hôtel hospitalier, avec le rapport, on va installer un hôtel, il y aura entre 20 et 30 chambres qui seront réservées aux patients. Vous dormez à l'hôtel, vous êtes opéré le lendemain à 9h, et vous pouvez, si vous avez fait par exemple l'objet d'une anesthésie générale, vous pouvez rester dormir à l'hôpital après, ensuite de soins, et ça marche très bien, c'est en train de se développer. Voilà. Il faut savoir que sur le CHIPS, le Centre Hospitalier Intercommunal Poissy-Saint-Germain, il y a 12 000 actes chirurgicaux qui sont accomplis tous les ans. 12 000, donc c'est beaucoup quand même. Sur ces 12 000 actes, il y en a 60-65% qui seront faits à Saint-Germain en ambulatoire, beaucoup d'orthopédiques. Donc ça va être un site qui va être important. Et pour que ce soit un site important, il faut aussi l'imagerie. Donc l'imagerie nucléaire va revenir. Et puis on est en pleine discussion, c'est pas simple, entre l'hôpital et des radiologues pour implanter l'IRM, j'espère avant la fin de l'année. C'est des discussions qui sont compliquées. Les coopérations en matière de santé entre le public et le privé sont dans notre pays étonnantes. Je vous dis, elles sont vraiment étonnantes. Elles sont complexes. On est avec bah, des chasses gardées, des corporatistes, et bon, il faut qu'on aille au-delà, parce que ce qui compte avant tout, c'est la santé et la santé publique. Donc un hôpital qui va se moderniser, qui va se recompacter, qui libère de l'espace sur lequel on peut avoir des projets. Une clinique, la clinique Saint-Germain, qui va se redévelopper, hein, qui a des besoins d'extension, 600, 900 mètres carrés, notamment pour les naissances. C'est important. D'ailleurs, à propos de naissances, moi j'ai regardé les chiffres, l'État civil m'a donné les chiffres, entre 2018 et 2019, il y a le même nombre de naissances déclarées à l'État civil à Fourqueux et à Saint-Germain, pour ceux qui avaient des craintes que les choses puissent changer. On est toujours autant à Fourqueux et à Saint-Germain. Je tiens à dire, à Fourqueux, entre 2018 et 2019, c'est des chiffres. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres de l'État civil, parce qu'ils sont très importants. Et donc, on a une clinique qui va s'étendre parce que la maternité va très certainement s'accroître. On a des risques de fermeture de berceaux dans les Yvelines, la Saint-Louis, à Poissy notamment, et le site de Saint-Germain pourrait récupérer une partie de ces berceaux. Donc il faut des mètres carrés en plus, une très grosse maison de santé avec 30-35 médecins. Hein, c'est un projet qui est mené par un médecin que vous connaissez bien, enfin, vous connaissez surtout son épouse, je pense, puisqu'elle préside le tennis ici, c'est le docteur Martès, hein, qui mène ce projet avec une trentaine de praticiens. Et puis, une nouvelle résidence-service et un EHPAD avec une qui va également s'accroître. Et c'est important d'en parler, même si ce n'est pas tout à fait sur le territoire de la commune déléguée de Fourqueux, parce que ça concerne chacun et chacune d'entre nous. C'est l'offre de soins sur notre territoire. Voilà. Si j'en viens peut-être plus particulièrement à un certain nombre de projets ou d'investissements sur le territoire de Fourqueux, j'ai parlé de la place de la Grille, j'ai parlé de ce que nous allons faire également à l'école Chalouvard, parce que quand on parle de désimperméabiliser, et ça, j'ai toujours du mal à le prononcer, désimperméabiliser, mais à la longue, je commence à bien le dire, ça concerne également les cours d'école. Il faut créer maintenant des îlots de fraîcheur. Mais il y a quelques années, on ne construisait pas nos écoles comme ça. Et maintenant, c'est une demande des parents aussi que d'avoir des îlots de fraîcheur dans les cours d'école. Donc il va falloir qu'on investisse et qu'on réinvestisse dans les deux très grandes cours d'école, on va dire, de Charles Bouvard, tout en maintenant des politiques d'investissement soutenues sur cette infrastructure. Ça doit être, je pense, en volume, je ne veux pas dire de bêtises, c'est lui peut-être la plus grande école. Parce que sur le nombre de mètres carrés et sur la superficie. Donc évidemment, c'est une école qui a des problématiques, peut-être que les autres écoles de centre-ville à Saint-Germain n'ont pas. Donc elle est particulière et elle nécessite des investissements importants. Autre investissement important, c'est la plaine bancaire, la plaine sportive. Alors on a refait les cours de tennis. Alors j'ai cru comprendre avec Sébastien qu'on avait quelques petits problèmes dans la rénovation des cours, mais en tout cas on va y remédier. On a fait les deux cours couverts et on va continuer à refaire toute cette infrastructure. Le terrain d'Ogliani de foot, il a été inauguré, il marche bien. Un petit sujet sur le gymnase Philippe Pivert, qui vous savez est partagé entre un certain nombre d'associations sportives, entre le collège et le lycée international, et puis on essaye de récupérer, bon an, mal an, quelques créneaux, mais dans cette logique avec le département, qui n'est pas toujours évident, mais Elisabeth veille pour en tout cas protéger nos intérêts, de manière à mutualiser un équipement public, parce que si on mutualise un équipement public, ben, ça coûte moins cher aux contribuables, évidemment. Et je vous dis ça parce que, à quelques mètres d'ici, il y a le gymnase du COSEC, hein, à côté du tennis club du Bel Air, on est peut-être à 300 mètres d'ici, on a le projet de le refaire. Mais avant de refaire le COSEC, et pour définir les besoins du COSEC, si on peut utiliser un peu plus d'espace et de temps disponible sur le gymnase Philippe Pivert, eh ben on n'est peut-être pas obligé de construire autant de mètres carrés sur le gymnase COSEC. Et chaque mètre carré économisé, hein, quand on construit un édifice public, c'est beaucoup d'argent public en moins. Il faut que vous l'ayez en perspective. Donc la plaine bancaire autour du sport, peut-être l'aménagement, ce qu'on appelle un city, ce que les jeunes appellent un city, ce sont des surfaces un petit peu réduites qui permettent de faire du football à n'importe quelle heure. Hein, ça fait partie des choses qu'on réfléchit. Puis surtout un aménagement et vélo et piéton pour rejoindre, on va dire, l'extrémité de la route des Princesses qui vous permet ensuite de rejoindre la plaine de la Jonction, là où il y a les jardins partagés de l'espace sensible, dit des plâtrières, c'est juste au-dessus, hein, pour celles et ceux qui connaissent, on est vraiment là, à la confluence entre le village d'Edmont, Chambourcy, le lycée agricole, Fourqueux, et un petit peu Saint-Germain, Et là, par contre, on s'est rendu compte que ce cheminement n'est peut-être pas toujours évident, donc il faut qu'on le refasse. Voilà un certain nombre de projets, et un projet culturel qui est très important. Il est boulevard de la Paix, à quelques centaines de mètres de l'Institut Notre-Dame, c'est le nouveau conservatoire de musique. Parce qu'on estime effectivement que sur l'ensemble de ce territoire, on manquait un petit peu d'infrastructures et d'équipements publics destinés à la culture. Un conservatoire, c'est comme un collège. Hein, c'est 900 élèves, à peu près. Particularité, un collège, c'est le département qui est propriétaire des murs, qui assure la maintenance, et puis c'est l'Éducation nationale qui paye et qui rémunère les enseignants, mais qui définit le contenu pédagogique. Trois choses. Or, un conservatoire, c'est la ville qui fait les trois. On est propriétaire de l'infrastructure, on l'entretient, on définit les programmes, et on assume évidemment le coût de l'enseignement, et on rémunère les professeurs. Donc c'est très important que de pouvoir avoir un conservatoire de musique qui sera là, qui sera le conservatoire Claude Debussy, avec l'ensemble des plateaux de danse, parce qu'on est sur un territoire de chorégraphie, peut-être tendance à l'oublier, il y a 10 ou 12 associations de danse sur le territoire de Fourqueux et de Saint-Germain, de la danse classique, d'autres formes également de danse, et c'est important que ce conservatoire puisse avoir le maximum de médiation culturelle. La médiation, c'est un terme assez étrange pour dire de l'animation culturelle avec les trois ou quatre groupes scolaires qui sont positionnés sur ce côté-là du versant, Charles Bouvard, Jean Moulin, Marie Curie, bien évidemment. Voilà, je pense que c'est important qu'on ait une politique un peu plus soutenue en matière du secteur scolaire pour la culture, et pour faire ça, il faut un peu un navire amiral, et ça sera le conservatoire qui sera là. Et je souhaite que notre conservatoire s'ouvre un peu plus, c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas une sorte d'aristocratie parfois dans le conservatoire avec ses enseignants qui sont tous de très grande qualité, mais s'ouvre un peu plus sur des mutualisations ou des projets en commun avec Musica Fucosa, peut-être avec les enseignants que nous avons ici à l'espace. On a fait un certain nombre de projets, on a fait du jazz en commun avec la clé, on y est arrivé. Donc ça prend toujours du temps, mais en tout cas, le projet dans notre politique culturelle, c'est que tous les acteurs et tous les opérateurs culturels doivent apprendre à travailler ensemble. Je vous donne l'exemple ici de l'espace qui a été refait il y a quelques années. On va réinvestir un petit peu dans l'espace, notamment sur les lumières, de manière à pouvoir accueillir ici un certain nombre d'événements de la saison théâtrale Alexandre Dumas, qui est le théâtre de Saint-Germain. On peut ici avoir... Il y a un public qui est là. Toutes les manifestations qui sont organisées ici marchent bien. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde ici pour le jazz, donc ça marche bien. Et donc, on peut avoir une offre culturelle un peu plus étendue ici. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques éléments. Alors, bien évidemment, je n'oublie pas ce que nous avons vécu depuis un an, et puis je vois un certain nombre de représentants de collectifs et d'associations qui sont là. Mais vous savez, je suis, je pense, un élu de dialogue et d'écoute, donc je suis là, évidemment, pour répondre à tous et à toutes vos questions, mais vous dire un peu que voilà, depuis un an, nous avons appris à mieux nous connaître, nous avons appris à travailler, des élus aussi, hein, 70 élus, nous avons 70 élus. Il y avait 27 élus de Fourqueux, 43 élus de Saint-Germain. Alors sur la prochaine liste, hein, on sera 45, plus de suppléants, donc 45 qui vont siéger. Voilà, on va passer de 70 à 45, donc ça c'est évidemment quelque chose qui est significatif. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis un an, au-delà d'apprendre à mieux nous connaître? Enfin, moi, je n'ai pas vraiment besoin de vous connaître, je connais bien ce territoire, mais on a d'abord mis du service au profit de la population, c'est ce qu'on a fait. On a déménagé la mairie déléguée qui était sur la place des Rotondes à Saint-Germain pour l'installer ici, donc on a fermé la place des Rotondes pour l'installer ici. On a fait ça l'été dernier, avec la mise en place d'une station biométrique. La station biométrique, c'est celle qui vous permet de réaliser vos papiers d'identité. Avant, la plupart d'entre vous allaient au centre administratif à Saint-Germain pour le faire. Et depuis cet été, on est sur environ 1300 actes d'état civil qui ont été délivrés. Quand je dis actes, hein, pardon, je ne parle pas des actes qui proviennent des registres, je parle de documents d'état civil délivrés, environ 650 passeports et 650 cartes d'identité. Alors, c'est peut-être pas très important, c'est peut-être insignifiant. Ce sont des données, il faut les prendre avec la prudence qu'imposent les données, mais ça prouve que quelque part, le fait de déménager les services d'état civil, il y avait une demande. Il y avait une demande pour faire des passeports et des cartes d'identité. C'est ce que délivre une servile. C'est ce que délivre une collectivité locale. Elle délivre du service et du service pour la population. On a évidemment modifié un peu les repas à la cantine. C'est une, avec l'appui et le soutien des parents, de manière à pouvoir avoir plus de bio et de circuits courts dans les écoles. Mais Sylvie à Berne-Puy et puis tous nos élus pourront, Claire, tu pourras aussi l'évoquer parce que tu étais aussi impliqué dans ce choix. Et puis, on a mis de la sécurité. Voilà, on a mis de la sécurité, c'est un choix que nous avons fait. Nous avons une police municipale qui est composée de 43 personnes. Alors, on peut être contre la sécurité. On peut dire que c'est pas utile. On peut dire que c'est pas intéressant ou utile d'armer une police municipale. On a plus d'une trentaine d'agents qui sont armés. Moi, je me souviens très bien quand on a, avec Emmanuel Lamy, pris la décision d'armer la police municipale, on a eu des débats. Des débats éthiques, philosophiques. C'est un choix qui est engageant. Ça engage la responsabilité personnelle du maire, s'il se passe quelque chose. Donc, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Mais avec ce qui s'est passé à Paris il y a quelques années, je crois que ça a achevé, en tout cas, de nous convaincre qu'il fallait qu'on arme notre police municipale. Et on a armé la police municipale du territoire de la commune nouvelle, territoire de Saint-Germain, évidemment, qui aujourd'hui profite à l'ensemble du territoire. Alors aujourd'hui, vous voyez peut-être la police municipale qui passe. Il faut savoir que depuis un an, c'est 8000 heures de présence, la police municipale. J'ai eu les chiffres il y a quelques jours. C'est donc 8000 heures de policiers municipaux, qu'ils soient en patrouille, qu'ils soient en individu, qu'ils soient en statique, qui patrouillent sur le territoire sur une année. Donc ça correspond évidemment à plusieurs agents, quasiment à temps plein sur la commune. Donc c'est évidemment mieux que ce qu'il y avait avant, et c'est normal, parce que quand on est une collectivité de 4000 ou 4500 habitants, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources pour investir dans de la vidéo, on n'a pas les ressources pour investir dans les ressources humaines, pour avoir plusieurs policiers. Et quand on a une policière municipale, quand elle part en vacances, elle n'est pas remplacée. Voilà. Et maintenant, avec un système de 40 personnes, ça permet d'avoir une présence permanente. Alors vous savez que juste au-dessus, on a une caméra. On a installé ces caméras au mois d'octobre. Cette caméra, elle a une angulation un peu particulière parce que à la fois elle surveille cette place, hein, toute la place devant l'espace, et puis toute la rue qui est devant l'école, parce qu'en priorité, on cible évidemment les entrées d'école. C'est pour ça qu'on a eu là. La deuxième, elle est devant la mairie. Elle cible et à la fois la mairie et puis la place de la grille. Il y a un distributeur d'argent qui est là. Il faut qu'on ait un petit œil. Il y a eu d'ailleurs un petit méfait il y a quelques semaines ou mois sur quelqu'un qui retirait de l'argent au distributeur de la BNP. Donc il faut qu'on ait davantage de surveillance qui soit là. Voilà, ça c'est du service en plus pour la population. Et puis bien évidemment, après, mais je pourrais détailler, je ne veux pas être trop long, je suis déjà très long, je trouve. Hein, puis l'objectif c'est quand même de pouvoir répondre à vos questions. L'objectif c'est d'avoir des tarifs qui sont homogènes, harmonisés. Donc aujourd'hui, les habitants de Fourqueux peuvent profiter des tarifs unifiés au conservatoire, à la bibliothèque multimédia, les deux bibliothèques, notamment la Georges Sand, qui n'est pas loin d'ici, et puis la piscine. La piscine, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un syndicat intercommunal. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui, évidemment, vous y avez droit. Et puis, l'harmonisation fiscale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'harmonisation fiscale? L'harmonisation fiscale, évidemment, quand on fusionne les communes, eh bien, il faut qu'on fusionne les taux d'imposition. Je rappelle que la commune, elle n'est responsable que sur les taux d'imposition. Et là, c'est jamais facile, parce qu'on peut se dire, il y a des perdants, il y a des gagnants. Et puis, comme c'est en plus jamais facile, ben, il y a l'État qui est venu nous rappeler hier ou avant-hier qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, ben, finalement, l'harmonisation fiscale que nous avions votée sur la taxe d'habitation, elle était en fait quasiment rendue impossible. Ce qui fait que les habitants de Fourqueux, en fait, ils ont gagné au tirage et au crapage. Ils vont maintenir leur taux de taxe d'habitation, le même taux qu'avant, 11,68, pas dire de bêtises, hein, je crois que c'est ça, 11,68%, alors qu'à Saint-Germain, on était sur 12,47%. Donc si on prenait une moyenne, on faisait, je crois, 12,39, c'est ce qu'on avait arrêté, mais on utilisait une politique d'abattement en faveur des enfants, parce qu'on a une politique familiale qui est assumée, avec des abattements sur la taxe d'habitation, sur la valeur locative, qui sont très importants dès que vous avez un, deux, voire trois enfants, avec un quatrième abattement qui était prévu de 20% si vous aviez une personne handicapée charge. Et donc le taux de taxe d'habitation va rester à 11,68 sur Fourqueux. En revanche, là où vous allez gagner, c'est sur la taxe foncière. Parce que là, pour le coup, comme elle n'est pas supprimée, à la différence de la taxe d'habitation qui va être supprimée pour l'ensemble des Français dans quelques années, la taxe d'habitation sur Fourqueux, elle va passer de 12,50% la taxe foncière. Vous suivez, ça c'est bien, c'est un test pour enseignants. Merci en tout cas de votre interpellation. Elle va passer de 12,50 à 9,97. Donc ça fait moins 20% quand même. Donc, je vous donne juste un chiffre, ça fait 221 000 euros. Ça coûte au budget de la commune nouvelle 221 000 euros de fiscalité redistribuée quelque part aux assujettis taxes foncières qui payent la taxe foncière, les propriétaires. La différence entre le nombre de foyers propriétaires et le nombre de foyers locataires, on est sur quelques centaines, je crois que ça doit faire 400, moins de 400 logements qui quelque part ne sont pas concernés. Il faut que ces 1600 foyers fiscaux, jusque pour vous ayez un peu les grands chiffres à l'esprit. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a des harmonisations qui sont plus compliquées. L'électricité, c'est plus compliqué. Voilà. Il faut unifier le produit de cette taxe que l'on a. Mais là, il y a un effet volume. La taxe d'électricité, elle était de 4% à Fourqueux. C'est une taxe qui est locale. Elle va malheureusement passer à 8,5%. Ça fait 40, on va dire 50 euros d'écart par an. Mais parce que le produit de cette taxe à Fourqueux, c'est 79 000 euros. Et sur Saint-Germain, c'est 800 000 euros. Donc ça, ce sont des harmonisations qui sont plus complexes. Donc quand on parle d'harmonisation fiscale, il faut faire des additions et des soustractions. Pour un foyer fiscal, la taxe foncière, c'est 150, 160 euros d'économie. Vous allez peut-être soustraire le surcoût de l'électricité, voilà, 50 euros. Vous êtes à un net de 100 euros. Alors peut-être que ça a un peu d'impact, hein, mais bon, c'est toujours ça de bon à prendre. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est l'harmonisation que nous faisons sur les tarifs de l'eau. On a en 2024 nos deux délégations de services publics qui vont être renégociées dans le cadre, pour le coup, d'un marché unique. On a fait des avenants sur nos deux marchés, celui de Saint-Germain et celui de Fourqueux, qui vont déjà vous permettre, dès le 1er janvier, d'avoir une baisse du prix de l'eau d'environ 4%, encore 4% l'année prochaine, et puis on a bon espoir qu'en 2024, là pour le coup, on sera sur une baisse totale de l'ordre de 25% pour tangenter ce que les Saint-Germainois payent sur le coût de l'eau. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Donc l'harmonisation, c'est aussi fiscalement, je pense, intéressant pour les habitants de Fourqueux. Alors j'ai beaucoup d'autres exemples, je sais que certains d'entre vous peuvent les contester, peuvent ne pas être d'accord, mais on est là aussi pour échanger et pour débattre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Ce que je vais simplement vous demander, comme on est très nombreux ce soir, c'est de poser peut-être des questions courtes, hein, pour que je puisse avoir le temps d'y répondre, et surtout pour que tout le monde puisse répondre, avoir la possibilité de poser des questions, et ouais, on se donne encore peut-être une demi-heure, et de toutes les manières, si on n'a pas la possibilité publiquement d'y répondre, moi je reste là encore une heure avant qu'on me chasse, hein, et je serai à votre disposition avec nos élus pour répondre à toutes vos questions. Mais voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce propos liminaire, vous définir un petit peu nos trois axes prioritaires qui nous définissent, je pense, en tant que Saint-Germainois et en tant que Fourqueuxien. Vous dire également que ce qui nous définit, ce sont nos identités plurielles. Voilà. Moi, je ne suis pas pour amalgamer les identités. Je suis pour qu'on respecte les identités. Je suis pour qu'on respecte la différence. Je suis pour qu'on soit dans une approche tolérante et bienveillante. Il y a une âme particulière, il y a un état d'esprit particulier. Il faut que c'est indéniable. Il faut conserver ça à tout prix. Alors, je sais que certains ont pu se sentir peut-être un peu heurtés par la démarche de la fusion que nous avons entrepris il y a un an, et je respecte ça. Je respecte ça. Je respecte le fait qu'on puisse être choqué ou heurté. Et quand je disais tout à l'heure que peut-être que nous n'avions pas tout fait bien, j'en assume ma part de responsabilité. Voilà, je le dis devant vous, Monsieur Monteil, j'assume ma part de responsabilité, je le regrette. Je regrette très certainement que sur peut-être des questions de forme, les choses se soient passées ainsi, ou que certains aient pu avoir l'impression d'avoir été un peu soit pris au dépourvu, soit que le processus se soit fait un peu trop rapidement. Ce que je sais, sur le fond, c'est qu'on ne s'est pas planté. Ça, j'en suis sûr. Aujourd'hui, quand je vois les chiffres, quand je vois ce que l'on fait, quand je vois la qualité du service qui est délivré aux habitants maintenant de Fourqueux et de l'ensemble du territoire. Je sais que cette démarche, elle était la bonne. Et dans un territoire d'Île-de-France, où il y a 1270 communes, où on vous parle tous les jours du Grand Paris, de la métropole, ce que je sais, c'est que si on veut sauver l'identité communale en Île-de-France, dans des zones urbaines et périurbaines, il faut fusionner et rapprocher les communes. Il n'y a que comme ça qu'on va sauver la commune, justement, en ayant des communes qui soient rapprochées, fusionnées, et qui soient davantage intégrées et préservées en préservant les identités. Ce n'est pas la communauté d'agglomération qui va vous permettre de faire ça. Ça, je peux, avec Daniel, on peut vous en parler. Ça ne sert pas à ça, la communauté d'agglomération. Ça ne sert pas à défendre l'identité des villages et des villes. Ça sert à gérer d'autres choses, c'est important. Ça gère les transports, ça gère les ordures ménagères. Peut-être demain, ça va gérer, je dis peut-être parce que c'est toujours compliqué avec le législateur, l'eau et l'assainissement, ça gère les flux. C'est important de gérer les flux, mais ça ne gère pas l'état d'esprit et ça ne gère pas l'identité. Voilà la petite précision que je voulais vous faire avant de vous passer la parole. Alors, souvent dans les réunions, je dis, il y a toujours... Voilà, toujours un petit peu d'attente, qui va poser la première question, il y a toujours un peu de timidité. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je pense qu'il n'y aura pas ce sujet-là. Je vois Monsieur Monteil qui est là, monsieur, etc. Mais il faut en laisser pour les autres, hein, les amis. Hein. Parce qu'on va, échanger, on va parler, mais il faut que tout le monde puisse parler. Allez-y, monsieur. Les colistiers seront présentés au retour des vacances de février. Voilà. La réunion de présentation de liste aura lieu le 28 février, Saint-Jacques-Tati, et le programme, je vous ai déjà détaillé un peu le programme, et l'ensemble des colistiers seront présentés en biographie dans le programme qui sera distribué dans 15 jours. Voilà, le temps de l'imprimer. Je me laisse encore, chère madame, un petit peu de marge de manœuvre. Toujours. Parce que si on dit, ah ben, il y a des gens qui participent à la campagne, qui ne sont pas des colistiers, il y a aussi des amis, voilà, qui nous aident. Voilà.
Sur le parisien, excusez-moi, mais lors de votre conférence de presse, vous avez
un peu
votre...
On en parle par le soir.
Lors de la conférence de presse,
attention à votre candidature. Lorsque M. Leclerc a annoncé sa candidature, certains journalistes ont fait une interview, il a été précisé qu'il y avait déjà trois candidats. Qu'il y avait déjà trois candidats. Donc M. Level, M. Bassine et Madame. Donc on sait qu'il y a ces trois personnes qui sont sur notre liste.
Effectivement, Martha Sira, qui est notre sénatrice, qui est sur notre liste, et bien évidemment, se repartira avec notre madame.
Oui, bonjour, j'ai juste une question au niveau de la circulation à Fourqueux, secteur de Saint-Germain-en-Laye. On sait très bien, on est un secteur très nature, oui, et notamment, on aimerait bien que tout le monde aller plus à pied, mais malgré tout, on voit quand même beaucoup de voitures passer, et dans certaines rues, j'ai un peu l'impression du fait qu'il n'y a pas de feu rouge, et bon, on peut y aller. Et donc, Fourqueux est bien en dénivelé, donc parfois, quand les voitures partent de en haut vers le bas, j'ai déjà vu, notamment dans la rue, des voitures qui dépassent d'autres voitures. Même pour se garer, parfois il faut vraiment insister pour pouvoir se garer ou ne pas faire klaxonner. Et donc c'est seulement pas un souhait personnel, mais c'est aussi un souhait par rapport aux autres personnes. On est responsable de tous habitants de Fourqueux. On ne veut pas voir d'autres personnes blessées par un accident de voiture, donc c'est pour ça que je suis là ce soir pour témoigner. Donc, je suis habitante de la rue des Basses-Auges, qui a donc une entrée, une sortie du village. Et bon, Je ne sais pas combien de voitures ils passent, mais il y en a beaucoup. Je préférerais les voir à pied, effectivement. Je crois qu'il y aura beaucoup de monde. Donc voilà, est-ce qu'on peut juste faire une finalisation adéquate?
C'est un sujet du quotidien, mais un sujet essentiel. Comment on essaye de jouer? Alors déjà, il y a la responsabilité individuelle de chacun. Alors c'est compliqué, hein, parfois en France, la responsabilité individuelle. Le civisme, hein, c'est compliqué, donc respecter. Et la commune, elle peut jouer sur un certain nombre d'éléments. J'évoquais la vidéo tout à l'heure. La vidéo, on peut vidéo verbaliser maintenant. Ça existe aussi. L'objectif, hein, c'est pas de matraquer, je vous le rassure, ça se fait pas automatiquement. Ça se fait à la demande, ça se fait évidemment a posteriori. Mais si on est victime d'excès de vitesse, si on est victime d'incivilité, moi ça m'arrive régulièrement que d'appeler mon directeur de la police municipale et lui demandant d'utiliser la vidéo pour verbaliser des voitures. On pourrait le faire à Place de la Grille, on pourrait le faire ici. Si on estime qu'il y a des dépassements qui sont dangereux, ça m'est arrivé également, même encore récemment, de demander à sanctionner et à verbaliser un chauffeur de taxi qui avait mis un sens interdit. Pourtant, il connaît les rues de la ville. Donc, on peut voir là-dessus, un peu sur la technologie. La signalétique, c'est important, évidemment. Et avec des flux, aujourd'hui, qui sont... avant, les flux étaient statiques, on savait les grands axes de circulation qui étaient utilisés. Puis, il y a une petite application magique qui est intervenue, qui s'appelle Waze, que tout le monde utilise. Et alors, Waze, c'est impressionnant, parce qu'en l'espace de quelques minutes, ça vous refait un périphérique ou une autoroute dans des rues qui n'avaient jamais connu de voiture. On a ça en ce moment rue Franklin et rue Jeanne d'Arc, voilà, parce qu'il y a des travaux sur la RN184. Et là, il faut faire des pièges anti-Waze. On commence à apprendre à les faire. Et donc, effectivement, il faut apposer de la signalétique et à chaque fois sur des flux qui sont variables. Et puis, évidemment, bah, il faut peut-être... Alors, vous avez raison, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait encourager les gens à moins prendre leur voiture, mais on ne peut pas faire autrement non plus. Et sur ce territoire qui est comme ça, on n'a parfois plus le choix, hein, que de prendre sa voiture. Mais vous avez tout à fait... Non, il faut canaliser. Et pour canaliser, il y a aussi un autre levier, c'est évidemment la qualité de la chaussée, des enrobés. Avoir des enrobés aussi qui aujourd'hui génèrent moins de nuisances acoustiques. On a maintenant des technologies qui permettent d'avoir moins de bruit. On a des rétrécissements de chaussée. Alors c'est ce qu'on a fait là, sur la rue de Fourqueux, justement sur la partie haute de la rue de Fourqueux. Alors c'est pas toujours facile, parce qu'il faut trouver des points d'équilibre avec les habitants, avec le stationnement, avec sur une voirie départementale, avec les camions. Hein, on fait partie des sujets de réunion qu'on a eu ensemble, hein, et puis les bus. Donc c'est vraiment, voilà, plein de petits paramètres sur lesquels il faut agir. Mais je dis surtout la santé des gamins et la sécurité des gamins quand on traverse. On a encore eu un petit accident l'autre jour, et dans une ville où il y a 23 000 gamins. Je dis gamins, pardon, parce qu'ils sont jeunes, hein. Mais voilà, où on en a 23 000, voilà, c'est une préoccupation, au même titre que l'est, parce que ça fait partie aussi de nos nouvelles compétences, la sécurité alimentaire. Je fais juste une petite digression, hein, aucun lien entre la sécurité alimentaire et la sécurité piétonne, mais ça fait partie d'une politique de sécurité. Je le dis parce que William est là, on a un maire adjoint en charge de la sécurité, qui non seulement est en charge de la sécurité publique, la police municipale, mais la sécurité routière, voilà, en lien avec la police nationale, et la sécurité alimentaire. Pourquoi je parle de la sécurité alimentaire? Parce qu'on a quasiment doublé ou triplé tous les contrôles d'hygiène de tous nos restaurants depuis l'année dernière. Parce que là encore, dans une ville où on a 23 000 enfants, on ne peut pas se permettre d'avoir des gamins qui mangent n'importe quoi. Et là, je suis le premier concerné avec un garçon qui mange n'importe quoi. Voilà, tous les restaurants ou les fast-foods. Et donc, on a fait fermer, j'ai fait fermer un sushi hier. Parce que j'ai eu un rapport, effectivement, qui m'a dit qu'il fallait le fermer tout de suite. En plus, il était tout nouveau, tout neuf. Hein. J'ai fait fermer deux kebabs aussi, rapidement. Voilà, parce que les normes d'hygiène, ça fait partie des compétences municipales que nous avons, en tout cas, que l'État nous délègue. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, monsieur.
Ce qui est important, c'est, bon, en général, la sécurité. Si on a quelques points noirs ici, alors ça va être un point blanc. C'est-à-dire on a 20 à l'heure, là, théoriquement. Moi, je passe assez souvent. Les bagnoles ne respectent jamais le 20 à l'heure. Ils sont toujours à 30, 40 à l'heure. Donc, la police municipale, c'est la première chose à faire, c'est de faire respecter la vitesse ici. Puis en bas, on a un carrefour pour venir de Saint-Germain vers Fourqueux. vers le lycée, vers le lycée international. Absolument pas. Chaque fois, c'est la roulette russe. C'est-à-dire, est-ce que je traverse, est-ce que je ne traverse pas? Prudent.
Sur le rond-point que vous parlez, le nouveau rond-point. Mais où le nouveau rond-point?
Arbouno, je pense.
C'est ça, Elisabeth? Arbouno, Boulevard Fleury. Ah oui, d'accord. Okay. Et là, en plus, on a eu à la commune, elle ne peut pas tout régler en trois coups de cuir à peau, mais elle a besoin d'interpellation, comme celle que vous faites, en tout cas. D'accord. Je le dis parce que vous voulez dire. Alors, attendez, monsieur Montaigne, il y a votre collègue d'abord, et puis vous après.
Merci.
Vous promettez que c'est vous après.
Bonsoir. Vous avez évoqué un certain nombre de projets que vous avez définis de structurants, et il me semble que vous avez peut-être omis de parler d'un projet qui me paraît aussi structurant, tant sur les travaux que ça va engager que sur le financement. Il s'agit de la construction du nouveau réservoir en haut de la rue du Val-Fleury, où nous n'avons eu aucune information sur la construction de ce réservoir. Et donc, est-ce qu'il sera effectivement possible aujourd'hui que vous parliez un petit peu de ce projet? Quel est l'intérêt effectivement de ce projet, tant sur le plan effectivement environnemental, parce que j'ai pu comprendre qu'il s'agissait d'un projet écologique, et puis tant sur le plan architectural également, si vous pouviez nous en parler, ce serait.
Alors je vais essayer de pas être trop technique de parler. Là, on parle du réseau de chauffage urbain, en partie. On va le faire comme ça, et du forage à l'Albien. Essayer d'être un petit peu schématique. On a une particularité sur le territoire de Saint-Germain, parce que c'était historiquement au début à Saint-Germain, d'avoir un droit de puisage dans cette nappe à l'Albien de 900 000 m3. La consommation des Saint-Germainois, c'est environ 2 400 000 m3 par an. Pour ajouter Fourqueuse, ça doit faire 2 750 000 environ m3 d'eau qui sont consommés par nos habitants, nos 47 000 habitants, et donc on est propriétaire d'un gros tiers de cette consommation, de ce flux, 900 000 m3. Avant, notre puits était basé sur la commune du Pec, en zone inondable, et donc on nous a demandé effectivement de trouver un autre système. L'Agence régionale de santé nous a demandé en raison des risques d'inondation. Et donc ce forage, il va être au niveau de la sortie de Saint-Germain, la maison d'identitaire, de l'antiquaire. Vous êtes quasiment plein de la jonction, là où il y a l'usine biomasse. La biomasse, c'est le bois, ça permet d'alimenter ce réseau de chauffage urbain. Le réseau de chauffage urbain, principalement destiné, il y en a environ 500-600, les réseaux de chauffage urbain. Parfois, vous allez à Paris, vous voyez CPCU, hein, c'est la grande compagnie de chauffage urbain sur la région parisienne. Ça permet aujourd'hui de procurer du chauffage environ 16 ou 17% de la population saint-germanoise. Pour ceux beaucoup moins concernés, beaucoup moins d'immeubles collectifs, le chauffage urbain n'a d'intérêt que là où il y a de l'habitat collectif, principalement le quartier du Bel Air, demain également le quartier dit de l'hôpital, mais d'autres ensembles collectifs. L'avantage du chauffage urbain, c'est qu'on maîtrise évidemment les flux. On était sur des mécaniques dites de cogénération de gaz qui doivent progressivement s'interrompre. Et donc on essaye de trouver du chauffage plus propre, plus écolo. La biomasse, c'est déjà une réponse, c'est du bois. Et la deuxième des réponses, c'est cette eau. Alors vous me direz, chauffer avec de l'eau, pourquoi? Parce que cette eau, elle a une particularité, c'est qu'elle sort de l'eau à 24 degrés. Et l'eau qu'on injecte dans votre robinet est à 17 degrés. Et vous avez un différentiel de chaleur de 7 degrés. Hein, ce différentiel de chaleur, on l'injecte en géothermie dans le système de chauffage. Ce qui fait que quand le dispositif sera finalisé, d'ici peu, et que la petite usine de déferrisation, unité de déferrisation, sera construite notamment, vous aurez un chauffage urbain qui sera composé à 70% d'énergie dite propre, et biomasse, et géothermie, mais avec une assiette qui va s'élargir. Et l'assiette, elle va s'élargir sur environ 25% du territoire pourra être raccordé. Alors, quand j'ai dit ça, après, il nous faut des réserves dites albiennes qui sont nécessaires, et donc il faut raccorder cet endroit qui est donc sur le terrain de l'Antiquaire, jusqu'au réservoir de Fourqueux, parce qu'on a des différentiels de pression. Le réservoir de Fourqueux, pour ceux qui jouent au golf, hein, vous voyez où il est. C'est le trou, je ne sais pas d'ailleurs, combien tu dis c'est un par 3. Hein, c'est le par 3 et le réservoir il est juste dans son dos quand on parle. Et donc effectivement, on va voir, alors, en termes d'architecture, il n'y a pas de sujet, hein, on est sur des choses qui sont très, très basiques. Hein, je ne savais même pas qu'il y avait une problématique d'architecture en particulier. Par contre, on est sur l'enfouissement de réseau. Et donc on va avoir effectivement de l'enfouissement de réseau qui va partir du terrain d'Antiquaire, qui va progressivement remonter, lycée international, Croix-de-Fer, et puis remonter un peu sur le réservoir. Voilà, si je peux répondre à cette question. Monsieur Montaigne. Je suis désolé, je suis un peu technique, mais je vais vous permettre de répondre beaucoup plus rapidement à ma première question. Avez-vous reçu le questionnaire de Fourqueux Citoyen et comptez-vous y répondre?
Je vous ai répondu aujourd'hui.
Ah, je n'ai pas encore vu votre réponse, évidemment, parce qu'elle est partie par le courrier, mais moi je ne vois pas de recommandé. Donc vous l'aurez en courrier simple. Et je n'ai pas envie de recommander non plus. Non, je n'ai absolument pas dit chercher de recommander. Je vous ai envoyé ce questionnaire à l'adresse arnaudpericard@saintgermain-en-laye.fr. Ça m'est revenu parce que visiblement les courriers qu'on vous adresse à cette adresse-là me reviennent.
J'ai adressé l'adresse du maire. Enfin, ils sont adressés d'autres. Mais je vous ai répondu aujourd'hui.
Alors, j'ai adressé le courrier également à votre adresse mail de candidat au municipal, contact@ap2020, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et je vous l'ai adressé trois fois sans aucune réponse. J'ai été obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour vous relancer. Vous qui vous vantez d'utiliser les réseaux sociaux pour répondre rapidement à vos citoyens, à vos concitoyens, j'étais un peu surpris de ne pas avoir de réponse. D'autant que les quatre autres candidats ont répondu dans la journée même de l'envoi du questionnaire.
Écoutez, super pour eux. Je suis très très content pour eux.
Donc je suis enchanté. Vous pouvez peut-être me dire la teneur de votre courrier.
Je vous laisse découvrir la teneur de mon courrier, que vous pourrez publier, que vous pourrez diffuser. Mais je vous ai répondu, bien évidemment, je vous ai répondu. Et le courrier est parti aujourd'hui.
C'est, vous parlez de dialogue et de dialogue direct. Je trouve un peu bizarre que vous ne souhaitiez pas dire ce soir le contenu de ce courrier. C'est assez surprenant pour quelqu'un qui se dit homme de dialogue et qui se dit prêt à discuter de tous les sujets.
Monsieur Montré, vous savez, je n'ai pas peur du dialogue. En plus, c'est mon métier. Donc vous savez pourquoi dialoguer. Non, parce que je ne veux pas privatiser cette réunion. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions.
Ça n'est pas une question de privatisation.
Laissez-moi juste terminer et après je vous redonne la parole. On s'est vu déjà, on s'est vu dans mon bureau un an. On a évoqué un certain nombre de positions.
Il y a 15 mois, on a,
vous et moi, des désaccords. Ça arrive d'avoir des désaccords. Mais c'est pas grave. D'avoir des désaccords, c'est la vie. Vous avez des désaccords avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis en désaccord avec un certain nombre de mes élus. C'est pas grave d'avoir des désaccords. Donc, il faut aussi accepter le désaccord. Donc, moi, ce que je vous propose, vous prenez connaissance de mon courrier et on se voit et on dialogue la semaine prochaine, même demain, si vous voulez. Vous savez que j'ai aucune difficulté avec ça.
Je suis désolé, je suis obligé de continuer.
Oui, parce qu'il y a Laurent Subit qui veut poser une question, il y a monsieur qui veut poser une question.
Vous avez consacré 10 minutes tout à l'heure.
C'est important, la bien, c'est une vraie question. C'est un vrai sujet.
Mais la démocratie est un vrai sujet.
Deuxième question.
Alors, vous vantez bien évidemment les avantages de la fusion de votre point de vue, puisque vous dites que, par exemple, la baisse de la taxe foncière représente 25%, mais vous pourriez. 20%, vous pourriez dire que les tarifs de la cantine ont augmenté de 40% pour utiliser le même type de communication. Je sais que vous êtes un communicant, un avocat, donc vous avez l'habitude d'enrober des phrases. Tarifs de cantine ont augmenté de 40% pour un certain nombre de parents à Fourqueux. Donc, voilà, bien évidemment, vous présentez une vision qui est idyllique. Vous avez dit tout au début de la réunion, les élus ne prétendent pas détenir la vérité. C'est pas ce qu'on a constaté lors de la fusion, puisque vous êtes senti détenir la vérité contre la majoritaire des Fourqueusiens. Et voilà, je déplore une fois de plus
cette façon de faire qui est d'ignorer, de pouvoir ignorer vos opposants, en considérant simplement qu'ils ne sont pas représentatifs, alors que je ne suis pas opposant au départ, je suis opposant à la façon dont la fusion s'est faite, qui est, vous dites, on a pu être heurté, on n'a pas été heurté, on a subi un déni de démocratie. Moi, j'appelle ça comme ça, et beaucoup de Fourquesiens, une immense majorité des Fourquesiens, considèrent ça comme ça. Comment pouvez-vous dire que c'est faux alors qu'on a une pétition qui a recueilli plus de 50% de signataires? Non, mais c'est facile de dire que c'est faux. Ce sont des questions utiles. Je pose des questions, monsieur Péricard, qui est candidat à mairie, ne souhaite pas répondre.
Quelle est votre question, monsieur Montel? Est-ce que je peux juste me permettre de faire un petit rectificatif par rapport quand vous dites que je demande la parole,
oui.
Quand vous dites que je dénigre mes opposants, je ne crois pas que ce soit mon style. Je crois que je n'ai jamais...
La façon dont vous répondez, c'est...
Non, non, je crois pas.
Bon.
J'ai toujours été respectueux, honnêtement, de nos échanges.
Et je suis respectueux, je suis
bienveillant. J'ai ici des élus qui n'étaient pas dans ma majorité, j'ai toujours entretenu, ils sont dans cette salle, toujours entretenu, vraiment des rapports de travail et de cordialité avec qui que ce soit la gauche, que ce soit NEF, que ce soit, je veux dire, tous les élus de ce groupe au sein de la majorité peuvent témoigner de la manière dont j'ai conduit nos débats municipaux, toujours dans l'esprit et le respect du dialogue. Voilà, je voulais juste préciser ça.
Sauf quand vous décidez de couper le micro à certains élus.
Quand vous faites conférence.
Mais permettez, je ne comprends pas pourquoi.
Monsieur Montel, je vais parler la parole à Monsieur Dumont et puis à Monsieur Sibyl.
Alors,
mais pardon,
petite remarque également, vous parliez de vidéosurveillance. On a pu constater que la vidéosurveillance ne surveillait absolument pas le distributeur de billets. Donc je suis un peu surpris que vous affirmiez que la vidéosurveillance sert à protéger le distributeur de billets. On a publié quelque chose là-dessus. On n'a pas été concerté sur la vidéosurveillance. Et le conseil communal délégué ne s'est pas mis en place conformément aux chartes.
Ouais.
Donc bien évidemment, on aimerait savoir comment va fonctionner la citoyenneté dans votre futur mandat si vous êtes élu. Mais ça fait partie des questions qui sont dans le questionnaire. Comment va fonctionner l'implication du citoyen et ensuite, qu'est-ce que vous faites comme différence entre une ville et un village?
D'accord.
Voilà.
Beaucoup de questions. Ville et village.
Et là, c'est des questions simples. C'est
d'accord.
Des questions
simples. D'accord. Je vais essayer de répondre. Le distributeur BNP, c'est un sujet. Il est mal placé. Je l'ai dit tout de suite. Il est mal placé. Il est à côté, en plus, d'une consigne qui permet à des malfrats, si jamais, quand vous êtes à la tirette, de prendre la fuite, et c'est ce qui s'est passé. Donc il est mal placé. Quel que soit l'angle de vue de la caméra, il est mal placé de toutes les manières. Et quand on va réaménager la place de la grille, ça fait partie des échanges, on en a parlé avec Daniel Marc, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler avec la BNP, il faut qu'il change le distributeur. Il ne faut pas qu'il soit dans l'angle, il faut qu'il soit à gauche.
Il y a la caméra de la banque qui est juste au-dessus du distributeur, et l'incident qui s'est passé, il ne s'est pas passé au distributeur, il s'est passé rue des Isères, à 100 mètres après. Il n'y a jamais de problème sur le distributeur, il y a la caméra de la banque.
Mais à ce moment-là, on ne dit pas que la protection
après,
sécurise.
Après, vous me dites que vous n'avez pas été concerté sur... bon, moi, je suis désolé. Il y a des choses où je suis quelqu'un de concertation. Je sais qu'il y a des textes. Sur le schéma d'implantation des caméras, c'est une question de sécurité publique. On prend nos responsabilités. On le fait avec William. On a des schémas d'implantation. Sur tout le territoire, on a environ 80 caméras qui sont reliées avec notre propre réseau de fibres qui nous appartient. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure définition. Mais on le fait évidemment devant les lieux qui accueillent du public, les lieux où il y a de la circulation routière importante. Et ça fait partie aussi des prérogatives des élus de travailler. À chaque fois qu'on le fait, on le fait dans le cadre d'un schéma qui est validé par la préfecture et le commissariat de police de Saint-Germain. Donc on ne fait pas les choses à la légère. Ville-village, j'ai parlé d'état d'esprit tout à l'heure. Voilà. L'état d'esprit d'une ville, l'état d'esprit d'un village. Moi, je suis désolé, à Saint-Germain, il y a un certain nombre de quartiers. Je ne résume pas pour que un quartier. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des états d'esprit qui sont différents, qui sont pluriels, y compris dans une ville. Moi, j'ai une rue derrière la mairie qui s'appelle la rue de Lorraine, qui a sa propre association, sa propre gazette, sa propre fête, et je respecte, et c'est un état d'esprit qui est très différent rue Lorraine que de la rue d'Alsace, qui est la parallèle à 10 mètres. Voilà. Donc il y a des états d'esprit qui sont différents. Le village, il y a cette dimension cocon, il y a cette dimension où on se connaît peut-être plus, où il y a davantage de proximité, où le secteur associatif est très présent. Vous avez, à Fourqueux, un secteur associatif qui est très énergique, très présent, soit culturel, patrimonial, ou sur toutes les associations. Particularité de notre territoire, vous savez qu'on soit ville ou village, et l'étude des jeunes de Sciences Po l'a démontré récemment pour le MAS, c'est qu'on s'engage davantage dans les associations caritatives et sociales. Donc il y a aussi des choses que l'on retrouve en trait commun entre une ville et un village. Et ce village, il y a cet aspect peut-être un petit peu de proximité qu'on a beaucoup moins dans la ville. Encore que, et ça c'est une particularité peut-être de notre ville, on a des esprits villages qui se développent dans un certain nombre de quartiers. Monsieur Mirabelli qui est là, qui habite dans une des résidences du Bel Air, la résidence de l'Arpège, quand ils font la fête des voisins, Arpège et tous les événements qu'ils font, certes, c'est de l'habitat collectif, mais il y a un état d'esprit qui est particulier. Alors je ne sais pas si ça peut correspondre, en tout cas, ou répondre à une définition sur la différence entre une ville et un village, mais pour moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui peut y contribuer. Alors je passe la parole à monsieur.
Oui, merci de me donner la parole. Monsieur Monteil, c'est mon tour, désolé. Et d'ailleurs, je vous rejoins dans la mesure où, avant à Fourqueux, il y avait quelque chose qui était un petit peu mieux que maintenant, c'est le nettoyage des abords de la forêt. Parce qu'on est entouré d'une belle forêt, vous avez oublié, vous avez oublié d'en parler, elle est magnifique. Et le nettoyage des abords de la forêt, l'absence de nettoyage, ça a un impact, c'est-à-dire qu'il y a une maladie, un flou qui se développe beaucoup dans la forêt, c'est la maladie de Lyme, c'est les tiques. On a de plus en plus de tiques. Et malheureusement, avec l'hiver doux qu'on a, ils se développent de plus en plus. Maintenant, il y a même en hiver. Et je veux savoir ce que vous comptez faire, si vous pourriez mettre quelque chose dans votre programme pour lutter contre ce fléau, pour nettoyer, par exemple, un peu mieux la forêt.
Merci. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de la forêt. Particularité de la forêt, c'est qu'elle est gérée par l'Office national des forêts et que je dis bien théoriquement, on n'est pas compétent, mais on commence à l'être de plus en plus. Alors, certains élus le refusent. Quand on a fait ce comité de forêt avec tous les élus des villes qui bordurent la forêt, là je parle de la partie nord, mais aussi Marly-le-Roi, il y a des villes qui sont très impliquées. La ville de Marly-le-Roi, sur la forêt de Marly, a une politique très proactive et souhaite s'impliquer. La mairie de Maisons-Laffitte, beaucoup moins. Voilà, Maisons-Laffitte estime que c'est une responsabilité de l'État, que l'État est responsable de l'entretien de la forêt, y compris des problématiques sanitaires, hein, et que donc c'est sa responsabilité. C'est pour ça qu'on a fait, je répète, hein, ce que l'on a fait, la démarche des États généraux de la forêt, où on a déjà plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été fléchés, pas sur cette question-là, mais c'est un bon point, pas sur cette question-là, sur le ramassage des déchets sauvages, l'aménagement des sentes et des chemins pour que la forêt soit praticable, et puis également des aménagements dits touristiques, c'est-à-dire un peu plus de panneaux d'information pour expliquer. Mais ça peut faire partie des choses qu'on peut mettre quand vous rentrez dans une sente, quand vous êtes par exemple à la journée, un grand panneau, là d'information sur la conséquence de cette maladie. Il n'y a pas que la maladie de Lyme qui pose problème dans la forêt. Il y a beaucoup de stress hydrique. C'est une forêt qui a connu la sécheresse très fortement. On a beaucoup d'arbres malades. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. L'ONF peut aussi, par défaut de moyens, avoir tendance à la faciliter. Il y a eu des coupes hein, contre lesquelles moi je m'oppose hein, parfois. Il y a aussi la volonté de faire un petit peu de sous et de vendre du bois. Et ça, je trouve que c'est pas une forêt de production, la forêt de Saint-Germain et la forêt de Marly. C'est une forêt de loisirs et d'agréments. Et quand on voit, moi j'ai fait ressortir par les archives municipales tous les plans de la forêt, l'évolution des plans de la forêt, je ne parle que de la forêt de Saint-Germain, on voit l'évolution du périmètre de la forêt qui a constamment évolué, on voit bien la main de Louis XIV au XVIIe siècle sur la forêt, avec une organisation de la forêt en étoiles, c'est-à-dire des étoiles et puis des grandes allées cavalières pour la chasse, mais c'est aussi, quelque part, la maîtrise de l'homme sur la nature, et c'est comme ça que cette forêt, elle s'est construite après, au fur et à mesure, des siècles. L'enjeu aujourd'hui de la forêt, c'est de la respecter dans sa propreté, et c'est de continuer à la réparer. Elle s'est difficilement quand même remise de 99, de la tempête, ça a été très compliqué. On a reboisé la 17 hectares avec les compensations forestières, train 13, première partie. Il y a d'autres compensations forestières qui doivent intervenir, et il nous faut accroître le périmètre boisé comme ça l'était avant, notamment, alors c'est très très loin de nous tous, hein, c'est au pont de Conflans, mais c'est encore chez nous, hein, le pont de Conflans, c'est peut-être à 14 km d'ici, hein, mais c'est encore le territoire de la commune nouvelle, et là il y a une très grave pollution que nous avons nous tous subie, parce que j'estime que c'est un bien commun, cette forêt, et qu'elle nous appartient à tous. Fin du 19e siècle, les Parisiens décident d'utiliser la partie nord de la forêt de Saint-Germain pour y déverser leurs eaux usées. Après, ça donne la construction de l'usine du SIAP, que vous connaissez, 350 hectares de forêt qui sont déboisées, et après, on épand les eaux usées. Donc cette forêt, elle a été abîmée, elle était sur une superficie qui était plus grande auparavant, il faut reboiser, et nous on projette en tout cas d'y reboiser dans un premier temps 50 hectares, surtout sur la fin du mandat, après la dépollution. Mais la maladie de Lyme, c'est un vrai sujet, et beaucoup, beaucoup de promeneurs qui ont des chiens, c'est mon cas, qui vont en forêt, passent notre vie après enlever les tiques. Hein. Voilà, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Madame, pardon. Peut-être on peut... Ah, pardon, Laurent.
Non, excuse-moi. Ah non, je suis obligé de parler.
Allez, on entendra mieux maintenant. Juste, j'aurais souhaité entendre ce que vous envisagez en termes d'inclusion.
Peut-être que pour parler d'inclusion, je pense que Paul, si tu veux bien nous en parler, je ne me défausse pas, mais Paul Joly est le maire adjoint en charge de l'inclusion, un travail qu'il fait avec Nathalie, le sieur, qui est là, qui est dans son équipe. Paul est un des spécialistes français de l'inclusion et du handicap. Il est expert en la matière, peut-être pas. Il y a un peu ce qu'on fait, ce qu'on va continuer à faire.
Je peux dire qu'en introduction, c'est une excellente question.
Après, elle est posée, elle est jamais posée.
Et par ailleurs, je vais vous donner une réponse très pragmatique, puisque hier, nous étions un certain nombre au ministère pour recevoir le label éco-quartier sur la zone du Bel Air, qu'on appelle aujourd'hui éco-quartier du Bel Air, et non plus une ZUP ou une ZAC. Tout ce travail-là qui a été remercié par Julien de Normandie, donc notre ministre, simplement du fait qu'on est rentré dans cette démarche éco-quartier, justement, par la participation, la coparticipation des habitants sur un projet, un programme qu'on a mis en place, que certains d'entre vous connaissent, qui est le projet Axiome, et qui effectivement travaille autour de ces solidarités, autour du mieux vivre ensemble. Donc, c'est un vaste sujet, c'est une grande question, c'est le débat aujourd'hui des urbanistes. J'ai eu le plaisir d'entendre hier, d'ailleurs, le directeur qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais son nom c'est Delajoie, qui est le directeur du Grand Paris, et qui a eu ce discours, justement, de l'inclusion, un discours inclusif. Il a taillé une petite... Il a mis à l'écart Le Corbusier, ce qui était assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'on adule Le Corbusier en tant qu'architecte. Ceux qui sont à l'écart de Le Corbusier sont effectivement des personnes qui sont, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ont été mis à l'écart, mais c'est vrai qu'on a construit un urbanisme qui est plus un organisme de chemin de rue qu'un organisme qui est un urbanisme qui part de l'habitant et de l'usage des habitants. Aujourd'hui, je crois que vous pouvez être rassuré, on est dans cette démarche, on est dans cette qualité de démarche, on est dans cette qualité d'usage, et c'est vrai que pourquoi cela ? Tout simplement pour que personne reste sur le chemin et qu'on puisse rester le plus longtemps possible chez soi, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture et quelle que soit ses différences. Et ça, c'est très important. Donc c'est un axe très fort, et c'est un axe très fort de la politique municipale qu'on a menée sur ce premier mandat. Je ne sais pas encore si on fera le suivant. Bien sûr, c'est pas de cause. Je peux vous le dire, je suis vraiment garant de cette échelle inclusive au sein de...
Est-ce que Paul, tu peux donner quelques exemples, par exemple, de ce qu'on a fait ? J'ai parlé tout à l'heure, l'exemple dans la forêt, où on a fait passer la commission communale d'accessibilité.
Je vais vous donner un exemple. Alors, si on parle du handicap, parce qu'on parle de l'inclusion dans le handicap depuis la loi de 2005, donc l'égalité des chances, participation, citoyenneté des personnes handicapées. Mais encore une fois, pour vous donner un exemple de cette culture, dans les communes de plus de 5000 habitants, vous êtes obligés d'avoir une commission communale d'accessibilité. Cette commission communale d'accessibilité regroupe des personnes en situation de handicap, regroupe des présidents d'associations, regroupe une grande partie des actifs de la population d'une ville. En moyenne, on doit rendre un rapport tous les ans, qui est obligatoire. Et en moyenne, les villes de France se réunissent deux fois par an. À Saint-Germain-en-Laye, depuis 2014. Nous sommes à la 48e commission communale d'accessibilité. Nathalie de Sueur qui est là derrière peut en témoigner. Donc on n'a fait que des actions comme ça. Des actions inclusives, c'est aussi vous dire que par exemple à la fête de la musique, depuis deux ans, seulement deux ans, ça veut dire qu'il y a toute une culture, il faut aussi savoir apprendre à ce niveau-là. Depuis deux ans, on fait intervenir des groupes de personnes handicapées et je vous donne mon billet à savoir qui joue de groupe, si c'est une personne handicapée ou des personnes handicapées ou pas. Donc on est vraiment dans cette démarche où on ne veut pas stigmatiser, mais plutôt se tourner vers cette inclusion qui est très importante. Et franchement, j'ai une petite fille, encore pour vous donner des exemples, à la course d'endurance, c'est 3000 élèves qui courent donc tous les ans dans le parc du château. Et sur ces 3000 élèves qui courent, depuis maintenant 3 ans, j'ai voulu que viennent courir également les différentes structures avec des enfants handicapés à l'intérieur. Donc ils courent avec des joëlettes, donc on prend même des polyhandicapés, ils courent avec des joëlettes, ils courent comme ils peuvent courir. J'ai une petite fille, parce qu'après on reçoit les classes et on leur parle de tout ça, j'ai une petite fille qui m'a dit « Monsieur Joly, je suis très content parce que j'ai pu courir avec mon petit frère. » Voilà, c'est ça l'inclusion. Elle commence là. Elle commence là.
Difficile de parler après ça. Bon, je voulais juste, comme si vous vouliez nous donner un petit mot sur ce que vous comptez faire dans le commerce. Le commerce est un lieu de rencontre, alors, sur Fourqueux, sur la ville. On a, à titre d'exemple, un commerce vacant juste à côté de la billetterie, depuis des années. Je ne sais pas si vous avez une politique pour corriger ce genre de choses, mais en tout cas, quelle est votre politique en matière de commerce sur la ville nouvelle?
Merci. Donc, bon, le commerce, c'est un élément très structurant. Si demain, qu'est-ce qui va contribuer à rénover l'attractive dans la dimension commerciale? Et je l'évoquais tout à l'heure, la dimension médicale. Je suis persuadé aussi que l'attractivité médicale, demain, sera plus forte que l'attractivité commerciale. Alors, pour qu'on accompagne les commerçants, il y a plein de petits... c'est une équation à beaucoup d'inconnus. Et sur chaque inconnu, il faut essayer de travailler. Il y a plein de petits leviers sur lesquels on peut travailler. Déjà, il faut attirer plus de monde chez nous. Alors, comment on peut faire quand on a déjà des difficultés de stationnement, de circulation, pour attirer plus de monde? Le tram, on a une possibilité. Nous, on a fait, avec Daniel, un tour avec tous les maires concernés, donc le maire de Versailles, le maire de Saint-Cyr, de Bailly, de Noisy, d'Étang-la-Ville. Tous nous disent qu'ils veulent utiliser davantage les commerces. Là, je parle de l'hypercentre de Saint-Germain, dans un premier temps, avant de remonter un peu sur la grille, et qu'ils veulent davantage venir chez nous, le faire en mobilité douce, sans avoir à prendre la voiture, parce qu'on sait que c'est compliqué, et on sait que le samedi et le dimanche, c'est compliqué en transport en commun, parce qu'il y a peu de bus. Donc il faut jouer, il faut communiquer, il faut attirer les gens, il faut une offre de structure, il faut une offre de stationnement plus importante. Le quartier d'hôpital va nous permettre d'avoir un nouveau parking de 600 places, un nouveau multiplex, enfin c'est pas un multiplex, faut pas dire ça, parce que ça va pas changer, mais 8 à 10 salles, voilà, qui va nous permettre d'attirer plus de monde. Et puis, il y a toute la proximité, le service. On est en région parisienne sur une bizarrerie autour de la structuration du commerce, autour de grands pôles commerciaux, que moi, à titre personnel, je combats. Voilà. Je combats parce que je trouve que ce sont des modèles de développement qui sont plus adaptés. Et on a mené un combat, je disais du mal du maire de Maisons-Laffitte, là je vais en dire du bien tout à l'heure, parce que c'est un combat qu'on a mené, je dis du mal, entre guillemets bien sûr, mais qu'on a mené ensemble contre l'extension du carrefour Montesson. Carrefour Montesson, vous n'y allez jamais, vous, je pense. Moi, j'y vais jamais. Je ne sais pas si des gens y vont, parmi vous, mais oui, vous allez à Chambourcy, vous n'allez pas au Carrefour Montesson. Mais quand la ville de Montesson projette de créer une nouvelle galerie commerciale de presque 20 000 mètres carrés, ça fait 450 magasins, 20 000 mètres carrés. Dire qu'on est dans quelque chose qui est complètement délirant, qui ne répond plus, je pense, aux attentes des gens, y compris en matière de consommation, parce que la consommation, elle n'augmente pas, elle est quasi stagnante, et donc il faut changer un petit peu de modèle. Et puis il faut mettre du lien, il faut mettre des interlocuteurs. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité. Et donc on a une nouvelle manager du commerce, ça tombe bien, elle est vraiment du territoire, elle est d'ici, elle a plusieurs fois été voir nos commerçants de la place de la Grille, et puis nos restaurateurs. Les restaurateurs, c'est un peu plus facile, entre entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller sur Amazon et acheter de la restauration. Pas encore, heureusement. Hein? Et donc, il faut qu'on développe nos commerces autour de l'alimentaire, autour des cafés, autour du restaurant, autour des terrasses. Voilà. Ça, c'est quelque chose que... Voilà. Il faut que les gens aient envie de venir. Place de la Grille, je ne sais pas. Pourquoi pas un restaurant avec, avec une terrasse. Ça a été le cas avant. Il y a une pizzeria qui a fermé. Ça peut être quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais on voit bien que, par exemple, ce que fait Cécile, c'est atypique et ça marche. Il y a de la valeur ajoutée. Et les gens y trouvent leur compte parce qu'il y a ça nulle part ailleurs. Il n'y a pas ça à Saint-Germain, il n'y a pas ça à Versailles. C'est nulle part ailleurs. Après, il y a la valeur ajoutée des commerçants. Si on a un boulanger qui est nouveau, mais qui est très bon, qui est primé, il n'a pas de chance, il ne trouve pas de personnel pour travailler avec lui. Donc là, on se heurte aussi sur ces métiers de l'alimentaire, sur des problèmes de structure qui sont compliqués. On essaye de travailler, notamment avec l'académie, sur l'académie, et puis notamment avec la chambre de commerce, hein, pour essayer de trouver des réponses. Et c'est pas facile. Et puis la pizzeria, bon, elle marche très bien, Fucosa, ça marche très bien. Donc on voit l'alimentaire, ça marche bien. Mais par contre, c'est vrai que la place de la Grille, elle a besoin. Là, on est plus peut-être dans une offre dite de proximité et de service. Alors, une agence immobilière, bon, ben, ça, c'est partout. Ça, il y en a. Hein, ça, il y en a partout. Mais il y a aussi un marché qui est là, qui a besoin. Et donc, pour jouer sur le commerce, il faut le regarder. Il faut être à l'écoute des commerçants. Il faut une politique de stationnement qui soit un peu plus active. Ici, c'est un peu moins vrai que dans le centre-ville de Saint-Germain. Il faut pouvoir aller sur vos commerces avec des transports en commun. Il faut faire de la publicité, il faut faire de la formation, il faut faire de l'animation. Voilà. L'animation, c'est peut-être un sujet sur lequel on peut mettre un peu le paquet ici, hein, autour de l'alimentaire, autour des fêtes. Toutes les fêtes sont très bien. Je sais que toi, tu as prévu de faire une fête, par exemple, le 4 juillet. Le jumelage de Winchester va faire une grande fête américaine, un peu à l'image de nos amis de Schwed. Je crois que vous le co-organisez d'ailleurs. Donc il faut qu'on ait cette politique d'animation ici, il faut qu'on la décline également, peut-être plus sur la place de la Grille, qui est une place qui a un petit peu souffert ces derniers temps. Il faut, pour animer, bon, déjà, il faut des idées, il faut réfléchir. Il faut, puisqu'on parle d'art par exemple, il faut que l'art aille dans la rue, beaucoup plus. Moi je suis complètement partisan de ça. Quand on fait par exemple bon, les expos que vous avez fait, je prends la photo. Plutôt que d'avoir des expos dédiés à la photo, parfois dans des espaces clos, il faut les deux. Il faut un espace clos et puis il faut mettre de la photo à l'extérieur pour inciter les gens à parcourir. Par exemple, c'est plus compliqué que des œuvres de street art, évidemment, elles ont une certaine valeur, c'est plus compliqué. Mais la statue, par exemple, les statues, ça peut faire partie. Je trouve qu'on est une ville, par exemple, qui manque un petit peu de statues. Partout, alors dans le jardin derrière, il y en a. Je trouve que c'est une bonne idée, ce qui a été fait. Et sur ce jardin, on en manque un petit peu, sauf dans le jardin des arbres, par exemple.
Oui, s'il vous plaît.
C'était en projet.
Alors, attendez, pardon.
C'était en projet, on avait reçu un rapport un peu pour le reprendre. C'est partie du projet, mais c'est des gros budgets.
Okay. Je sais que c'est un gros budget. On en a parlé ensemble. Non, c'est un gros projet qu'on va faire. Moi, je pense que le bon sculpteur qui profite des logements d'un bâtiment de la ville, il pourrait offrir aussi à la ville, plutôt que la ville achète au sculpteur. Hein, ça pourrait être aussi. Non, mais c'est quelqu'un. Non, je sais bien. Alors, dès qu'on peut, quand même, on est très facilitateur avec nos artistes. Et c'est vrai qu'on a un très beau projet autour du street art que l'on fait. Et on peut le faire aussi parce qu'en commune nouvelle, on a plus de moyens sur l'intervention culturelle et qu'effectivement, sur ce projet de sculpture monumentale. Voilà, il y a des prescriptions un peu techniques, un peu compliquées, mais on y arrive. Madame, pardon.
Je pense que vous n'allez pas me répondre aujourd'hui, mais plutôt après la mission. Qu'est-ce que vous allez faire des terres d'hôpital?
Des fonds d'hôpital.
Moi, j'habite devant.
D'accord.
Je m'apporte.
Alors, sur ce terrain, il y a un projet qui a été porté, qui a fait l'objet d'une consultation que nous allons finaliser, qui n'est pas encore finalisé, mais je trouve qu'il y aurait un beau projet. En tout cas, on parlait d'inclusion tout à l'heure. parler de handicap. Voilà. On manque de structures d'accueil autour de l'accueil des handicapés, des personnes voilà, qui nécessitent, notamment les adultes. Hein. On a des structures d'accueil pour les enfants, et encore, on voit l'immeuble Glycine a besoin de travaux, c'est ce qui est en train d'être, c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense que sur ce terrain-là, c'est un projet qui pourrait, je l'espère, voir le jour. Moi, j'y suis très favorable. Mais bon, on aura le temps, effectivement, de concerter, de prendre l'avis de la population. Si la population est très défavorable, ben, on entendra. Voilà. Mais je pense que c'est un beau projet. Voilà.
Donc, avec une... Attends, c'est la nature, moi, quand même.
Pardon ?
Donc, c'est la nature. À la place, on va mettre...
Moi, non. Alors, il faut pas, madame, il faut pas, il faut pas. Voilà. Moi, je pense qu'un projet, ça se construit ensemble. Voilà. Je l'ai fait, on l'a fait sur l'hôpital de Saint-Germain. Monique Dumont peut en témoigner. Il y a 2000 personnes qui ont participé aux réunions de concertation pour avoir le projet qui soit, je l'espère, le plus consensuel possible. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est la même démarche qu'on va utiliser sur ce projet. L'idée, c'est pas d'avoir un projet avec des problèmes de cohabitation, après avoir des recours juridiques ou des recours contentieux. C'est pas ça l'objectif. Hein. Faut que ça plaise à tout le monde. Donc effectivement, dès que la consultation voilà, sera en voie d'être finalisée, et vous avez raison, ça sera après les élections, puisque c'est quelque chose qui ne verra pas de toutes les manières le jour avant le 15 et 22 mars, ça fera l'objet de réunions, d'informations, de quartiers. Mais je pense qu'on a besoin, sur notre territoire, de structures d'accueil pour des adultes en situation d'inclusion. C'est important. Voilà, je voudrais répondre. Donc, monsieur Barreau.
Oui, merci. Je voudrais juste revenir un tout petit instant sur votre liste. Donc, elle sera, tout le monde, on aura tout le monde aura l'info le 28 février, j'ai bien compris. La liste, la date limite est le 27 février, de toute façon. Donc, on l'aura avant, on l'aura plusieurs jours avant. D'accord.
Donc, j'ai dit que vous l'aurez, elle sera diffusée au retour quasiment un peu avant les vacances. Avant la fin des vacances.
Avant la fin des vacances, donc dans une quinzaine de jours.
Oui, voilà.
D'accord. Bon, donc, j'ai bien compris que bon, là, vos 44 colistiers.
45 plus 2 sucrés.
Oui.
Fait 47 sur la liste.
D'accord. Vous avez dit qu'il y aurait à peu près 40% de renouvellement.
Oui.
Ça fait à peu près 18, si on prend la base de 45. Vous avez également dit...
47. Ah, c'est plus de...
Vous avez dit également qu'il y aurait des fourquesiens, c'est normal. Oui. Peut-être plus que la proportion de 10%.
C'est
normal aussi.
Oui,
donc,
c'est le cas.
Sans doute 6, peut-être 7.
C'est vous qui faites la liste avec nous.
Et je voulais, en fait, je me demandais quel a été votre principe de désignation de ces fourquesiens qui vont nous représenter dans quelques semaines. Parce que en 2014, plus de 4 fourquesiens sur 10 ont voté pour NEF. Donc, est-ce que vous allez tenir compte à cette occasion de toutes les sensibilités et elles existent, vous avez pu le constater. Pour constituer votre liste. Donc, sans dévoiler les noms, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous dire que ce sera varié, qu'il n'y aura peut-être aucun élu sortant, ça aurait pu être votre choix, et s'il y a des sortants, ce ne sont pas que des élus de l'ancienne majorité.
Bon. Alors, là, on est sur la liste. Alors, moi, j'ai choqué un certain nombre de mes colistiers, la liste, c'est pas important. Voilà. Je vais vous dire comment on fait une liste. Parce que c'est important de savoir, on se dit, la liste et tout. Non, c'est important. Comment on fait une liste sur 45 élus? Quand on est 70 et qu'on arrive à 45. Et ça, je peux vous dire que c'est la partie du job qui n'est pas sympa du tout et qui n'est pas du tout facile. Comment on fait? Déjà, il y a des élus qui décident d'eux-mêmes de partir, à se représenter, de faire autre chose, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge. Hein, il n'y a plus aujourd'hui un élu qui se dit « Allez, j'ai fait mon temps. » Maintenant, il y a des parcours de vie qui font qu'une liste... Voilà, quand vous élisez Stéphane Coutan qui est à côté de vous, il pourrait vous le dire, il est rentré en cours de liste à Saint-Germain avant, je ne parle pas de Fourqueux, je ne connaissais pas la situation, il y avait 43 élus, malheureusement vous savez qu'on a été dans le drame, on a perdu et M. Pivert et M. Lamy, on a eu des départs, et donc on avait, et puis il y a une élue aussi qu'on a virée, mais bon ça, je pense que tout le monde la connaît, hein, malheureusement, elle est très présente sur les réseaux sociaux, mais elle... pour le coup. Hein. Et donc on était 34. Les 9 élus restants sont passés à mi-mandat. Donc aujourd'hui on est dans des dynamiques de renouvellement et d'accélération qui sont bien plus présentes qu'on était avant. 70-45. Bon, et puis on pousse un peu, il y a ceux qui partent, mais quelque part le renouvellement naturel ne suffit pas. Donc parfois, il faut aussi expliquer à un certain nombre d'élus qu'il faut renouveler. Et c'est jamais agréable. Et c'est pas la partie sympa du club, honnêtement. Parce qu'on parle de gens qui ont œuvré pour leur commune, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit avant la commune déléguée de Saint-Germain ou la commune déléguée de Fourqueux, bénévolement ou quasi bénévolement, et qu'il faut renouveler alors qu'ils ont fait le boulot. Voilà, ça c'est compliqué. Et puis après, il y a tous ceux qui viennent de l'extérieur, qu'il faut voir. Moi, j'ai vu 106 personnes de l'extérieur. 106. Fourqueux, Saint-Germain. Hein. 106 personnes. J'ai vu les élus naître, bien sûr. Moi, tout le monde sait que Mathieu Cadeau, c'est un copain d'enfance. C'est quelqu'un, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance. Je le dis devant Daniel, il le sait. Et c'est quelqu'un que mon père a formé politiquement. Voilà. Parce qu'il a été, non seulement ici, il est Saint-Germain-Mois de naissance. Son père a été mon kiné pendant des années. C'est une famille que je connais. Sa maman est impliquée, Lynn, que tout le monde connaît, est impliquée à l'Estival pendant des années. C'est un copain. Et bien sûr qu'on discute, mais on discute depuis des années et des années. Après, c'est la décision individuelle des uns et des autres. Et moi, je disais tout à l'heure que dans le cadre de la tenue du conseil municipal, je n'ai jamais eu de difficultés relationnelles. Je peux avoir des désaccords, mais je les ai aussi avec mes élus. Parfois, il faut savoir écouter. Donc ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile de faire la liste. Et puis ceux qui restent, hein, parfois, ils ne sont pas tous contents non plus, hein, parce qu'ils voudraient monter un peu, ils voudraient voilà, s'occuper d'autres choses. Ben ça, ça fait partie un peu des choses qu'il faut intégrer. Et donc, effectivement, même si à partir d'aujourd'hui, on peut officiellement déposer sa liste, je me laisse encore un petit peu de temps. Voilà. C'est les vacances ce week-end. Moi aussi, j'ai peut-être besoin de souffler 48 heures. Hein. Et puis, je vous dirai très bientôt comment ça sera, comment tout ça va s'architecturer. Vous pourrez le lire dans 15 jours. Alors, c'est une bonne question. D'habitude, je commence toujours par ça. Moi, je ne suis pas parti, je suis pas membre d'un parti politique depuis 4 ans. Non, je ne suis pas membre d'un parti politique. Après, si vous me demandez quel est mon credo politique, je suis un homme de droite et je suis gaulliste. Ça, c'est mon credo politique. Hein. Je crois en l'homme, c'était le credo du général de Gaulle. Et si vous étiez peut-être présent lors des vœux à la population que j'ai tenus, j'ai parlé à la fin d'engagement autour de la personne du général de Gaulle, parce que cette année, en 2020, on va célébrer un triple anniversaire autour de la personne du général de Gaulle. L'appel du 10 juin 40, sa naissance, évidemment, en 1890, et puis sa mort en 1970. Donc je crois profondément à l'homme, et je crois profondément aux valeurs du gaullisme. Je suis un homme de droite, voilà, je suis libéral, européen comme sur ce territoire de Saint-Germain, et de Fourqueux. Je ne suis pas membre d'une formation politique, c'est le choix que j'ai fait. Je respecte ceux qui font partie d'une formation politique. J'ai dans ma liste des gens qui sont engagés. Je parlais de Martha de Sidrac, qui est sénatrice, qui est responsable des LR sur notre territoire. Martha, elle est engagée, et je respecte ça parce que les formations politiques, elles sont essentielles et importantes dans l'expression démocratique d'une ville, d'un pays, d'un département et d'une région. Mais je respecte aussi ceux qui sont partie des autres formations politiques, qui soient LREM, qui soient centristes, qui soient tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont démocrates et qui ont envie de faire progresser leur ville, je pense, ils ont la place à mes côtés. Voilà. On peut ne pas être d'accord. Après, il y a des extrêmes que je ne tolérerai pas. Mais vous savez, quand il s'agit de refaire un trottoir, que vous soyez LR, LREM, MoDem, tout ce que vous voulez, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est une gestion municipale, c'est une gestion de bon sens. Et moi, vous savez, la majorité des élus, ils n'ont pas d'étiquette politique. Ah ben, sa circulaire a été retoquée, donc on verra. Je suis, moi, divers droit. Je suis divers. Je pense que c'est ce qui me définit. J'avais fait en son temps, j'ai été proche de gens avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec Michel Barnier pendant longtemps, j'ai été son collaborateur. J'ai travaillé avec d'autres personnalités de droite, d'une droite plutôt modérée, mais qui sont des gens tout à fait respectables et pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié. Mais dans la gestion, non, mais c'est une bonne question parce que je ne parle jamais politique dans les réunions. Donc c'est bien aussi parfois d'en parler un petit peu sans être trop long. On a quand même dépassé les 10 heures. Est-ce qu'il y a vraiment des différences là entre la gauche et la droite quand on gère une ville? on peut dire, il n'y a peut-être pas de différence, il y a quand même quelques différences.
Voilà.
Sur la politique tarifaire, sur la fiscalité, sur la manière peut-être de donner des services. Voilà, exactement. Il y a des services qui peuvent être délégués au privé, et parfois c'est bien le privé. Voilà, ça fait